Mémoires de Sainte Hélène par le comte de Las Cases, chapitre 13. Séjour au Cap de Bonne-Espérance, espace de plus de 7 mois. Dimanche 19 janvier au mardi 28, mon emprisonnement au vieux château, détails, etc. En voyant notre capitaine revenir de chez le gouverneur, Lord Charles Somerset, il m'avait suffi de sa figure pour ne rien augurer de bon. Ce n'était plus le même homme. Il reparut avec un air froid et embarrassé. Sa réserve fut bientôt imitée par tous ceux qui m'entouraient. Plusieurs des officiers de la marine qui se trouvaient dans la rade du Cap vinrent visiter leurs camarades à bord du brick. Il m'était aisé de juger que la curiosité de me voir y entrait pour quelque chose, mais ils évitaient de lier conversation avec moi. Ils se parlaient entre eux et à la dérobée avec mystère. Leur regard semblait considérer un proscrit. Et toutes ces choses, et quelques expressions échappées, m'annonçaient qu'en dépit de toute la distance, on entretenait ici, sur la sûreté du grand captif, les mêmes craintes, la même défiance qu'à Sainte-Hélène, et j'en devais conclure que le sombre nuage qui enveloppait Longwood ne manquerait pas de se prolonger jusqu'à moi. Aussi, lorsque j'ai été mis à terre vers midi, j'ai trouvé sur le rivage l'officier chargé de ma garde. Le capitaine du brick, qui m'avait accompagné dans son canot, n'a pas voulu, à titre de vieille connaissance, et j'espère de sympathie réelle, me quitter avant de me voir dans la demeure qu'on me destinait, et nous avons marché vers ce qu'on m'a appris être le vieux château ou la forteresse. Après avoir franchi plusieurs ponts-levis et traversé maints corps de garde, nous sommes arrivés dans la cour intérieure ou place d'armes, et de là, par divers escaliers et corridors, nous sommes parvenus au logement indiqué pour nous. Les portes se sont trouvées fermées. C'est vraiment qu'on en a cherché les clés partout. Il a fallu aller attendre dans une salle commune occupée par plusieurs officiers de la garnison. Est arrivé par hasard un officier de l'état-major dont la figure a témoigné le plus grand étonnement qu'on nous laissât ainsi en pleine communication. Et prenant un prétexte poli, il nous a conduits dans sa chambre pour y prendre quelques rafraîchissements. Au bout de plusieurs heures, on est venu nous dire que nos appartements étaient prêts. Il se composait de 3 pièces que nous découvrions à mesure que le nuage de poussière dont elles étaient remplies se dissipait. On les balayait en ce moment. La première était toute nue, celle du milieu présentait une grande table, un fauteuil dont les pieds étaient brisés et 4 mauvaises chaises. La troisième contenait 2 bois de lit, 2 traversins, 1 paillasse et 3 couvertures. Voilà tout le précieux mobilier. Bien nous en avait pris d'avoir embarqué nos lits avec nous, mais comment se faisait-il qu'on eût mis 2 jours pour de tels préparatifs? Cette circonstance ne me donna pas une haute idée de l'ordonnance, de la précision et de la promptitude, de la domination nouvelle sous laquelle je me trouvais désormais. L'officier chargé de nous s'empara de la pièce d'entrée et s'y installa. Un factionnaire fut immédiatement placé en dehors, et on me signifia que je ne devais communiquer avec personne. Alors je me trouvais littéralement en prison. Je m'étais plaint de Balcombe's Cottage, mais ici c'était bien autre chose. Et voilà sans doute, me disais-je, le premier effet de la bonne recommandation de Sir Hudson Lowe. Vint le dîner. Il fut abondant, c'était notre officier qui le commandait. Celui d'état-major, dont la politesse précautionneuse s'était emparée de nous le matin, se croyant déjà de grandes connaissances, ou chargé peut-être d'une surveillance spéciale, vint me dire qu'il se permettait de venir me demander familièrement à dîner, et lui et son camarade s'étudièrent à nous en faire les honneurs de leur mieux. Ils montraient l'extrême désir de se rendre agréable. Mais je ne me trouvais guère en harmonie, et prétextant les fatigues du jour, je les laissais tête à tête en compagnie de leurs bouteilles, ce qu'ils prolongèrent fort avant dans la nuit, selon la coutume reçue. Le lendemain, j'eus la visite d'un capitaine de notre station de Sainte-Hélène. Connaissant l'état de mon fils, il amenait un médecin. C'était une grande attention de sa part. Mais cette présentation causa, durant quelques instants, un malentendu assez plaisant. J'avais pris ce médecin pour son fils ou son neveu. qu'on se figure un enfant de 18 ans avec toutes les formes, les manières et la voix d'une femme. C'était là l'imposant et grave docteur qu'on me présentait. Mais cet enfant était un phénomène, me disait-on. Monsieur Barry, c'était son nom, avait enlevé à 13 ans son diplôme de docteur en dépit de tous ses vieux examinateurs. Et il avait pour lui, sur les lieux mêmes, ici, des cures admirables. Il avait sauvé une des filles du gouverneur d'une maladie désespérée, ce qui l'avait rendu une espèce de favori dans la maison. Je profitais de cette dernière circonstance pour tâcher d'obtenir quelques lumières qui pussent diriger ma conduite vis-à-vis de ce nouveau gouverneur, auquel j'écrivis dès le jour même la lettre suivante qui lui exposait ma situation et contenait ma demande formelle d'être envoyé en Angleterre et mis en pleine et entière liberté. « Milord, déjà depuis plusieurs jours sous votre autorité et dépendance, j'ai l'honneur de m'adresser à votre Excellence pour connaître ses intentions à mon égard. » Par une circonstance qui m'est tout à fait personnelle, j'ai été enlevé de Longwood, Sainte-Hélène, le 25 novembre dernier, par Sir Hudson Lowe, gouverneur de cette île. Très peu de jours après, et à la suite de plusieurs conversations avec le gouverneur, sans aucune décision à mon sujet, j'ai eu l'honneur de lui écrire qu'à compter de cet instant, je me retirais de la sujétion volontaire à laquelle je m'étais soumis vis-à-vis de lui, que je me remettais entièrement sous l'exercice des lois et le sommet de les remplir à mon égard, que si j'étais coupable, je devais être jugé, que si je ne l'étais pas, je devais être rendu à la liberté. J'ajoutais que l'état affreux de la santé de mon fils, la mienne même, demandait impérieusement de se trouver à la source des remèdes de tout genre, et je le suppliais de nous envoyer en Angleterre. Le gouverneur Sir Hudson Lowe m'apparut alors fort incertain. J'ai des raisons de croire qu'un moment il n'a pas été éloigné de m'embarquer pour l'Europe. Ensuite, il a voulu me garder à Sainte-Hélène, séparé de Longwood, jusqu'au retour des réponses d'Angleterre. Et puis, il m'a offert, à diverses reprises, de retourner à Longwood. Enfin, il m'a expédié pour le Cap aux ordres de votre Excellence, saisissant ainsi, à ce qu'il m'a paru, dans la stricte lettre de ses instructions, un terme à ses embarras, et attendant peut-être d'autrui les mêmes résultats à mon égard, mais sans risquer désormais lui-même aucune responsabilité personnelle. Tel est, Milord, le cours sommaire que j'ai cru devoir vous exposer, afin que vous puissiez prendre une connaissance précise de ma véritable situation et que, dans la justice de votre cœur, vous trouviez simple, naturelle, inoffensive et tout à fait régulière la demande authentique que j'ai eu l'honneur de vous adresser en ce moment à vous-même, d'être envoyé en Angleterre aussitôt que possible et d'être rendu à ma pleine et entière liberté autant que mes droits naturels peuvent le prétendre sur vos devoirs politiques. J'ai l'honneur, etc. Postscriptum, je sollicite de votre Excellence la faveur de savoir si j'ai la faculté d'écrire à son Altesse royale, le prince régent, et à ses ministres. J'aurai alors l'honneur de vous adresser deux lettres, avec prière de les leur faire parvenir sans délai. Je vous serai obligé aussi de me laisser connaître les occasions qui se présenteraient pour Sainte-Hélène, ayant à adresser quelques papiers au gouverneur Sir Hudson Lowe. La réponse du gouverneur m'arriva le surlendemain. Elle était courte. Sans entrer dans aucun détail, il me faisait prisonnier sur le rapport de Sir Hudson Lowe et me condamnait à rester ici jusqu'au retour des nouvelles d'Angleterre. Je n'avais point à résister, il fallait bien me soumettre. C'est ce que j'exprimais à Lord Charles Somerset par une seconde lettre qui en renfermait deux autres. La première pour Lord Castlereagh, chargé de mettre la seconde sous les yeux du prince régent. « Milord, demandai-je au gouverneur, j'ai reçu la réponse que vous m'avez fait adresser et qui m'apprend que votre Excellence me retiendra captif ici jusqu'à ce que Sir Hudson Lowe ait reçu des réponses d'Angleterre à mon sujet. » Sans doute votre Excellence a pesé dans sa sagesse la force des motifs qui la déterminent à un acte aussi important que celui de me priver ainsi de ma liberté, sans aucune forme judiciaire préalable, sans même qu'on m'ait dit pourquoi. Il ne me reste plus qu'à me soumettre à l'autorité et à me reposer sur des lois qui veillent pour moi, s'il y a lieu. Je n'entreprendrai aucun argument ultérieur pour ma défense, persuadé que vous-même, Milord, dans un acte aussi délicat et dans la justice de votre cœur, vous aurez parcouru attentivement tout le cercle de ma cause. Et toutefois, j'aperçois dans votre réponse que votre décision repose sur les circonstances établies à mon sujet par Sir Hudson Lowe. Mais ces circonstances ont-elles été contradictoirement établies aux yeux de votre Excellence? A-t-elle entendu les deux côtés de la question et se croit-elle à l'abri de toute responsabilité personnelle en exécutant sur les seules instructions de Sir Hudson-là et sans nul égard à mes propres réclamations? Et comment se ferait-il que Sir Hudson-là n'a pas cru pouvoir hasarder sans risque à Sainte-Hélène, me retenir prisonnier, se trouverait-il plus facile et avoir de moindres inconvénients au cap? Milord, si votre Excellence trouvait désirable de s'éclaircir sur mon affaire et mes sentiments, je suis prêt à vous communiquer toute ma correspondance avec le gouverneur de Sainte-Hélène et à vous mettre sous les yeux ce que j'écris à son Altesse royale, le prince régent, et à ses ministres. Je vous l'offre et désire le voir accepté. De plus, si de me soumettre volontairement et franchement à mon arrivée en Angleterre à toutes les précautions, même arbitraires, qu'on jugera équivalentes à ma quarantaine politique ici, pouvait altérer votre détermination, je suis prêt à y souscrire de bon cœur, tant la santé de mon fils, la mienne même, le vide affreux dans lequel je me trouve désormais, n'étant plus ni avec ma famille qui m'est si chère, ni avec l'objet vénéré pour lequel j'en avais fait le douloureux sacrifice, me laisse le brûlant besoin de retrouver l'Europe. Enfin, Milord, s'il ne me reste aucune chance, faites du moins partir mon fils, qu'il ne tombe pas victime de circonstances auxquelles son âge le rend tout à fait étranger. Je me prêterai volontiers à le voir arraché de mon sein dans l'espoir de lui préparer un meilleur avenir. Et moi, demeuré seul avec mes infirmités et mes peines, je me résignerai avec plus d'indifférence, le croyant plus heureux, à la sentence de mort lente qui va s'exécuter sur moi sans qu'aucun tribunal l'ait débattue, sans qu'aucun juge l'ait prononcée. J'ai l'honneur d'adresser à votre Excellence une lettre à Lord Castlereagh contenant celle pour son Altesse royale, le prince régent. Elle se trouvait écrite lorsque les renseignements que vous avez eu la bonté de me donner à ce sujet me sont parvenus. J'ignorais celui des ministres auxquels je devais personnellement m'adresser. Je n'ai pas cru devoir recommencer. L'état de mes yeux me rend l'écriture trop pénible et je vois d'ailleurs que j'avais deviné les formes importantes. Lettre à Lord Castlereagh renfermant celle adressée au prince régent. Milord, dans l'ignorance de celui de vos collègues auquel je devais avoir recours, j'ai l'honneur de m'adresser à vous comme à celui dont les événements publics m'ont donné le plus de connaissances. Si les détails qui concernent Sainte-Hélène ont été mis sous les yeux de votre Excellence, ils vous auront sans doute inspiré de grandes préventions contre moi, et cependant, s'ils vous étaient convenablement développés, nul doute qu'ils ne vous parussent dignes d'estime et peut-être même d'intérêt. À Longwood, je me regardais comme dans une enceinte sacrée dont je devais défendre les approches. Je serais volontiers mort sur la brèche. Je résistais. Aujourd'hui que je me trouve en dehors du cercle révéré, que je suis rentré désormais dans la foule commune, je dois avoir une autre attitude. J'implore. Je vous demande donc, Milord, je vous sollicite, et je parle toujours dans la supposition que je m'adresse au ministre qui doit m'entendre. Je vous sollicite de me laisser arriver en Angleterre, où l'état affreux de la santé de mon fils et la mienne réclame les plus prompts secours. Et quel motif aurait-on de repousser ma demande? Serait-ce la haine personnelle? Je suis trop obscur pour atteindre un pareil honneur. Serait-ce la haine vague de la différence d'opinion? Mais vous êtes tellement accoutumé à cette différence parmi vous, et avec si peu d'amertume, qu'il serait ridicule à moi de le penser. Serait-ce la crainte que je n'écrivisse, ne publiasse, ne parlasse? Mais en me repoussant, n'autoriserait-on pas en quelque sorte le fiel qu'il me serait si facile d'aller distiller ailleurs? Et si l'on avait à vouloir gêner quelqu'un sur cet objet, à s'assurer de lui, le sol de l'Angleterre ne sera-t-il pas précisément le plus favorable et le plus sûr? Car vous avez contre de pareilles offenses non seulement les lois générales, mais encore les lois particulières. Quand l'individu est près de vous, vous avez pour garantie positive sa prudence, sa sagesse et surtout son désir d'y demeurer. Je ne vois donc, Milord, aucune cause de refus à ma demande. J'en aperçois au contraire beaucoup pour me la faire accorder. Quelle plus belle occasion pour vous de parvenir à la vérité en vous procurant des lumières contradictoires et opposées. Dans vos nobles fonctions de jury, votre conscience doit-elle se croire suffisamment éclairée en ne voyant qu'un seul côté de la question? Je puis montrer l'autre, et le ferai sans préjugé, sans passion. Vous ne trouverez en moi que celle du sentiment. Je passe à l'article de mes papiers qui ont été retenus à Sainte-Hélène. J'en ai déjà plusieurs fois exprimé la nature, je vais la redire à votre excellence. Il compose un recueil de 18 mois où, jour par jour, j'ai inscrit tout ce que j'avais su, vu ou entendu de celui qui, à mes yeux, a été et demeure le plus grand des hommes. Mais ce recueil informe, inexact, non arrêté, corrigé à chaque instant, et, par sa nature, devant l'être sans cesse, était un mystère que la circonstance seule a mis au jour. Tous ignoraient son existence, à l'exception peut-être de l'auguste personne qui en était l'objet. Elle-même, encore en cet instant, n'en connaît point le contenu. Il n'était pas destiné à voir le jour durant ma vie. Je me plaisais à en faire le monument historique le plus complet et le plus précieux. Veuillez ordonner, milord, qu'il vous soit adressé intact. Votre Excellence le peut sans inconvénient. Je lui proteste solennellement ici qu'il ne s'y trouve rien, directement ou indirectement, qui puisse donner des lumières urgentes et utiles à l'autorité locale de Sainte-Hélène pour le grand objet dont elle se trouve chargée. Elle ne saurait avoir aucun avantage à en prendre connaissance, et il y aurait de très grands inconvénients d'accroître, par les personnalités qui s'y trouvent, l'aigreur et l'irritation qui ne sont déjà que beaucoup trop grandes. Arrivé près de vous, milord, si votre situation politique juge que ces papiers, si sacrés, si secrets par leur nature, doivent être visités, je m'y soumettrai sans peine, parce que cela s'exécutera près de moi et que je serai sûr des formes inviolables et sacrées dont votre excellence en enveloppera l'examen. Je ne pense pas encore que vous trouviez aucune objection à cette seconde faveur que je demande avec insistance. Milord, j'ai l'honneur de vous adresser une lettre pour son Altesse royale le prince régent, et vous prie de vouloir bien me faire la grâce de la mettre sous ses yeux. Mon profond respect pour son auguste personne m'a seul empêché de vous l'envoyer ouverte, et j'autorise votre excellente à l'ouvrir si l'usage le permet. J'ai l'honneur d'être, etc. Lettre au prince régent d'Angleterre. Altesse royale, jouet de la tempête politique, errant, sans asile, un étranger faible, malheureux, ose s'adresser avec confiance à votre âme royale. Deux fois dans ma vie, j'ai eu le malheur de me trouver hors de ma patrie, toujours croyant ne remplir que de grands et nobles devoirs. Lors de mon premier exil, le séjour de l'Angleterre adoucit les peines de ma jeunesse, et je comptais sur elle encore pour couler quelques jours tranquilles dans mes vieux ans. Cependant, on me fait craindre de m'en voir repoussé. Et qui pourrait m'attirer une telle sévérité? Serait-ce le lieu d'où je sors? Les soins que je me plaisais à donner, les sentiments, les tendres vœux que j'y reporterais sans cesse? Mais, prince, à longue route, je professais une grande et rare vertu. J'y soutenais avec mes dignes compagnons l'honneur de ceux qui entourent les rois. Après nous, on ne dira plus qu'il n'est pas de fidélité, d'amour pour les monarques malheureux. De tels actes pourraient-ils être persécutés, m'interdire un asile? Et puis, celui qui, toujours grand, a tracé pour moi du roc de l'adversité ces paroles qui m'ont enflé le cœur, soit que vous retourniez dans la patrie, soit que vous alliez à l'heure, vantez-vous partout de la fidélité que vous m'avez montrée. Celui-là, dis-je, ne m'a-t-il pas donné un titre, des droits à la bienveillance de tous les rois? Prince, je me place sous votre protection royale. Dans l'abord journalier et les conversations fréquentes de celui qui a gouverné le monde et rempli l'univers de son nom, j'ai conçu et exécuté d'écrire jour par jour tout ce que j'en verrai, tout ce que j'en entendrai. Ce recueil de 18 mois, unique par sa nature, mais encore informe, inexacte, non arrêté et inconnu à tous, même à l'auguste personne qui en était l'objet, m'a été saisi. Prince, je le place aussi sous votre protection royale. J'ose vous en supplier au nom de la justice, de la vérité, au nom de l'histoire. que votre Altesse royale daigne, dans sa bonté, prononcer que je dois trouver un refuge à l'ombre de ses ailes, et j'irai y chercher un lieu où je puisse tranquille me ressouvenir et pleurer. Je suis, avec le plus profond respect, etc., le comte de Las Cases. En réponse à ma lettre à Lord Somerset, je reçus de lui l'autorisation que j'avais demandée pour mon fils de partir pour l'Europe par la première occasion. Je voulais qu'il en profitât, je l'empressai, je le lui ordonnai même, mais il s'y refusa absolument et écrivit à cet égard une lettre au gouverneur qui me causa des sensations trop douces et honore trop son cœur pour que je me refuse à la mentionner ici. « Mon père, lui demandait-il, vient de me lire la permission que vous m'accordez de me rendre en Europe. Il m'a supplié, ordonné d'en profiter. Milord, je ne ferai point usage de votre indulgence et j'oserai désobéir à mon père. Les peines du corps ne sont rien, celles du cœur sont tout. Et privé depuis 2 ans de ma mère, je la pleure à chaque instant. Toutefois, je n'abandonnerai jamais mon père dans un climat qui n'est pas le sien. » Et dans une situation si étrange pour lui. Ma santé n'est plus rien pour moi. Heureux si je peux lui être de quelque consolation et alléger en les partageant les maux qui depuis longtemps s'accumulent chaque jour autour de lui. Je préfère mourir à ses côtés que de vivre loin de lui. Je suis trop fier de ses nobles vertus, trop avide de ses grands exemples pour le perdre de vue un instant. Je mourrai s'il le faut ici. On pourra compter 2 victimes au lieu d'une. Je ne vous en remercie pas moins, Milord, du fond du cœur, de votre bonne volonté pour moi. Comme il m'eût été doux, combien je vous eusse béni de l'avoir étendu jusqu'à mon père. J'ai l'honneur, etc. » Cette lettre fut sans doute lue en famille chez Lord Somerset et y fit naître les sentiments dont elle était digne. Car le lendemain, le jeune docteur étant venu, et moi l'ayant pris à part pour qu'il fît usage de son ascendant médical sur mon fils, afin de le déterminer à partir, au lieu de m'écouter, il courut à la chambre de mon fils, lui sautant au cou, pour ce qu'il venait de faire, disait-il, l'assirant qu'il l'eût mésestimé s'il en eût agi autrement. Et l'entraînant à la fenêtre, il le présenta à 2 dames restées dans leur calèche. Et ce furent alors beaucoup de salutations réciproques. C'étaient les 2 filles de Lord Somerset qui avaient voulu ce matin conduire elles-mêmes le docteur jusque dans la cour de notre prison et probablement satisfaire l'intérêt et la curiosité que les expressions de mon fils avaient fait naître. Cependant, notre situation continuait d'être déplorable dans notre espèce de cachot. Nos fenêtres, sans rideaux, donnaient sur une cour couverte d'un sable enflammé. Dans cet hémisphère opposé, bien qu'au mois de janvier, nous nous trouvions dans cet instant sous les ardeurs brûlantes de l'été, nous étouffions. Au-dedans, toujours même gêne, même restriction, même contrariété, toujours mêmes honneurs de notre déjeuner et de notre dîner avec les mêmes officiers. J'étais surtout vivement heurté dans le cœur de cette dernière circonstance et résolu de m'y soustraire à tout prix, je gardai le lit et y pris désormais mes repas, décidé à n'en pas sortir si l'on anéigeait mes tourments. Je souffrais d'ailleurs de violents maux d'estomac. J'avais parfois de la fièvre. Ma santé était totalement dérangée. L'officier de garde m'ayant fait connaître, il est vrai qu'il avait ordre de me conduire dans la ville et même aux environs dès que je lui en exprimerais le désir, mais je l'en avais remercié pour moi et n'en voulu profiter que pour mon fils. Personne n'arrivait jusqu'à moi. Soit que l'officier qui me savait incommoder crût me rendre service, soit que cela lui fût interdit, il repoussait sévèrement toute tentative à cet égard, ce qui amena une circonstance des plus singulières. En face de notre porte était un fond de corridor où il nous était permis d'aller et qui nous devenait indispensable maintes fois le jour. M'y étant rendu et trouvant dans le voisinage une porte ouverte contre toute habitude, j'eus la curiosité de la franchir et un escalier rapide me conduisit sur le comble et la plateforme du château, d'où je dominais toute la ville du Cap et la vaste mer à perte de vue. Frappé de la beauté du spectacle, je m'oubliais dans les méditations qu'il faisait naître et 2 heures s'étaient écoulées avant que je songeasse à revenir. Le hasard avait fait que j'étais sorti durant la promenade de mon fils avec notre officier. Or, la sentinelle avait été changée pendant cet intervalle, si bien que, quand je me présentai à ma porte, ce soldat la croisa de son fusil et me repoussa fort brutalement. Plus j'insistais, plus il se fâchait. Cela me parut plaisant. Mais je trouvais plus plaisant encore de descendre les escaliers, de traverser les cours et d'aller au corps de garde extérieur, demander main forte pour pouvoir rentrer dans ma prison. Aux premières paroles, l'officier de service, effrayé de me voir là, s'élança en fureur dans les escaliers jusqu'au factionnaire, et là commença entre eux deux la plus violente querelle. L'officier l'accabla d'injures et le menaça de le faire rouer de coups. Le soldat, furieux de son côté et les yeux hors de la tête, jurait qu'après tout il avait fait pourtant son devoir. Et moi, tranquille spectateur, je ne pouvais m'empêcher de sourire d'un tel esclandre auquel ni l'un ni l'autre au fait ne comprenait rien et que moi seul aurais pu expliquer. Toutefois, la paix se fit aux dépens du captif. On me remit sous les barreaux et tout rentra dans le calme. Le jeune docteur était le seul qui parvint jusqu'à moi. Il me visitait souvent, sa conversation me faisait du bien. Il me répétait chaque fois de songer à ma santé. Il devinait, disait-il, le siège de mon mal et s'affligeait qu'il fût hors de son pouvoir d'y porter remède. Je l'assurais que le plus efficace qu'il pût me procurer en cet instant serait de m'obtenir un lecteur capable aussi d'écrire sous ma dictée. Je le demandais vainement depuis mon arrivée, l'état de mes yeux m'interdisant toute occupation. On la défendait strictement à mon fils, et les journées me devenaient insupportables si je devais demeurer ainsi, laissé oisivement à mes cruelles pensées. Le docteur m'apprit que le gouverneur allait partir pour faire le tour de la colonie, qu'il ferait une absence de 3 mois, ce qui allait éterniser pour moi un avenir que je ne pouvais plus endurer. Cette circonstance me détermina à faire une dernière tentative, bien que je comptasse peu sur le succès, et seulement pour n'avoir rien à me reprocher, car la manière horrible et tout à fait inconvenante dont j'étais traité m'étonnait moins qu'elle n'eût dû le faire. J'y avais été préparé. On nous avait répété souvent à Sainte-Hélène que Lord Charles Somerset était notre ennemi personnel. Et en arrivant ici, m'informant de son caractère et de l'accueil probable que j'en devais attendre, on m'avait dit « Monsieur le comte, sous peine d'être chien ou cheval, on n'attire guère son attention. » Et depuis, je m'étais répété tristement plus d'une fois dans les ennuis de la prison. En effet, comme je ne suis ni chien ni cheval, voilà pourquoi, sans doute, je n'entends point parler de lui. On va voir bientôt combien peu il méritait tout cela. Profitant d'une phrase de sa première lettre dans laquelle il avait exprimé le désir de me rendre mon séjour le moins désagréable possible, je m'en servis comme d'une occasion naturelle pour lui faire parvenir, dans la lettre suivante, toute ma pensée sur le traitement que j'éprouvais. « Milord, j'apprends que votre Excellence est à la veille de partir pour une longue absence, ce qui me détermine, en dépit d'une extrême répugnance, à entamer, quoi qu'il m'en coûte, un sujet pénible, celui de quelques détails domestiques. Je m'y crois obligé, afin, s'il m'échappait jamais avec le temps quelques paroles publiques de mécontentement, de ne pas encourir de votre Excellence le très juste reproche de ne lui en avoir pas donné connaissance. » Mais avant d'entrer en matière, Milord, et pour que vous ne m'accusiez pas de ridicule dans ce que je pourrais dire plus bas, comme aussi pour vous donner une idée juste de mes circonstances, qu'il est très simple que vous ne connaissiez pas, que votre Excellence me permette de lui faire observer, avec tout l'embarras de celui qui se voit obligé de s'annoncer et de se nommer lui-même, qu'il n'est personne ici sur la ligne duquel, sous tous les rapports quelconques, je ne puisse, je ne doive me placer naturellement et sans gêne. Ensuite, je ne demande ni ne sollicite aucune indulgence ni faveur relative à mes besoins personnels, n'ayant d'autre désir que d'être laissé sur cet objet à mes propres ressources. Ces deux points établis et déterminés, je passe à l'article de votre lettre dans lequel vous avez la bonté de me faire connaître votre désir de rendre mon séjour ici le moins pénible possible. J'aurai l'honneur à ce sujet de faire savoir à votre Excellence que je suis dans un vrai cachot où il me serait difficile de vivre longtemps. Renfermé avec mon fils dans une très petite chambre, avec l'extrême chaleur de la saison, malades tous les deux, nous respirons l'un sur l'autre. Nous ne saurions y bouger, nos lits la remplissent en entier. La réflexion d'un soleil brûlant par une fenêtre sans rideau me force de passer la journée dans mon lit. Une pièce de même nature est à côté, il est vrai, mais c'est une salle à manger dont deux de vos officiers me font les honneurs. Si j'y entre parfois, ce n'est qu'en calculant les moments. Une troisième chambre vient ensuite, c'est celle de l'officier que vous avez commis à ma garde, et je dois la traverser, quoi qu'il m'en coûte, pour les besoins les plus indispensables. Quelque dure, quelque effroyable que me soit cette position, j'ai été matelot, j'ai été soldat, et mieux encore, je suis homme, je saurais la dévorer en silence et bien au-delà. Je ne vous en parle ici que pour répondre au paragraphe obligeant de votre lettre. Il n'y a point de feu chez nous. Si la santé de mon fils ou quelques besoins passagers demandent un peu d'eau chaude, il faut y renoncer, ou recourir à la charité des voisins. Le docteur avait ordonné des bains pour mon fils, on ne peut y parvenir. S'il me vient la moindre fantaisie et que je veuille me la procurer, on m'objecte que votre excellence a ordonné de pouvoir à tout, ce qui, dès cet instant, réprime par délicatesse mon désir et ne le satisfait pas. J'épargne à votre excellence une foule de détails trop au-dessous d'elle et de moi. Arrive le supplice des repas. Deux officiers, pleins d'attention, d'égards et de politesse, j'aime à le confesser, y président, mais leurs soins mêmes, chose étrange et pourtant vraie, accroissent ma peine en me forçant de m'étudier sans cesse à y répondre, lorsqu'il serait très naturel et fort désirable pour moi de laisser errer mes idées loin du séjour où je me trouve. De plus, nos usages, nos habitudes, nos mœurs sont tout à fait différents. Je me vois plusieurs heures à table quand je n'y demeurais pas une demi-heure. Et quel sujet de conversation étrangère peut désormais être sans inconvénient pour moi? Votre Excellence a trop de jugement pour ne pas sentir que cette position doit être en effet un supplice. Ma tristesse est sans doute pénible à mes compagnons de table, comme leur gaieté me serait importune. La solitude la plus entière est mon seul lot, elle seule peut me complaire, aussi je n'ai pu continuer longtemps, je mange dans mon lit. De quelle nécessité peut être un officier attaché à ma personne? J'ose le demander à votre excellence, et je me plais à répéter ici que je ne saurais assez me louer de celui qu'elle m'a donné. Serait-ce pour ma surveillance? La sentinelle qui est à ma porte semble suffisante. Serait-ce une attention pour transmettre les désirs que j'aurais pu former? Mais je n'en ai aucun. Serait-ce pour légitimer les visites que je recevrais? Mais je n'en puis recevoir d'autres que celles que désigne l'autorité. Serait-ce pour m'accompagner dans mes courses? Mais il ne saurait m'arriver de faire un pas qui puisse être à charge à un officier. Je ne sortirai jamais. Milord, puisque vous avez arrêté que je demeurerai votre prisonnier, quelle objection votre excellence aurait-elle à me placer dans une maison en ville, me permettant d'y employer à mes frais le domestique, le cuisinier, etc., qui me plairait, avec les précautions qu'elle jugerait convenables et laissées à moi-même? Votre excellence aura pourvu à tout et n'en entendra plus parler de moi. S'il me prenait fantaisie de faire un tour en voiture ou autrement, j'écrirais à l'officier, je connais son obligeance, il ne me refusera pas. J'ai dû une maison à la ville, milord. La nature de l'incommodité de mon fils, qui exige par-dessus tout l'assistance constante et parfois subite des médecins, m'interdit tout à fait la campagne. Et tels sont les détails que je me suis cru forcé d'adresser à votre excellence. Je désire qu'il lui soit moins désagréable, moins pénible qu'à moi. J'ai l'honneur, etc. Cette lettre, par sa nature, devait amener un résultat décisif. La réponse immédiate fut l'arrivée de l'adjudant général, venant me dire, au nom du gouverneur, premièrement, qu'il avait donné des ordres pour que mon fils eût dès demain une chambre à lui seul, deuxièmement, que l'officier, dès cet instant, ne mangerait plus avec nous, troisièmement, que l'on s'occupa aussitôt de nous préparer un lieu plus salubre, enfin que si j'avais tout autre désir, on s'empresserait de le satisfaire, etc. Tels étaient les effets de ma lettre. Son succès, comme on voit, était des plus complets, au-delà même de mes espérances, et je me félicitais de l'avoir écrite, puisqu'elle me donnait la satisfaction de découvrir dans Lord Charles Somerset des dispositions que je n'avais pas attendues. Mais ce ne devait pas être là tout encore. Le lendemain matin, de fort bonne heure, un colonel, premier aide de camp du gouverneur, m'écrit qu'il a une communication à me faire de la part de son excellence et qu'il me demande mes ordres pour l'heure à laquelle il me conviendrait de le recevoir. Sur ma réponse, il arrive et me dit qu'il est chargé, de la part du gouverneur, de m'apprendre qu'il a quitté la ville ce matin pour une tournée de 3 mois, qu'il est bien fâché de savoir que j'ai été aussi mal, qu'il me prie de lui faire la grâce de croire que cela a été tout à fait à son insu, qu'il n'a rien de plus à cœur que de me faire supporter mon séjour, qu'il m'offre sa maison de campagne, ses gens et tout ce qui s'y trouve, qu'il me prie de m'en mettre en possession, me faisant répéter que si j'ai tout autre désir, je n'ai qu'à le faire connaître, que les ordres sont de les satisfaire. J'ai accepté sans hésitation, et le colonel est allé prendre les mesures nécessaires pour notre immédiate translation. Alors j'ai pu voir combien on avait calomnié le caractère du gouverneur. Alors j'ai eu la preuve certaine que Lord Charles Somerset avait les formes, la grâce et les manières de son rang éminent. Combien peuvent différer les hommes? À Sainte-Hélène, une lettre telle que la mienne eût probablement fait resserrer les chaînes. Ici, elle valait l'offre d'un palais. Et cette seule observation suffit pour caractériser les deux autorités avec lesquelles j'avais eu à traiter. C'est qu'au fait, Lord Charles Somerset était loin de mériter ce que j'en avais entendu. Tout homme a ses détracteurs. Peu de chefs ont le bonheur de leur échapper. Lord Charles Somerset, ainsi que j'ai pu m'en convaincre par la suite, était noble, généreux, moral, très religieux et d'une nature tout à fait bienveillante. Aucun mal, surtout celui qui a pesé sur moi, ne venait de lui, mais bien des subordonnés exécutant d'habitude le travail et influençant les décisions. Or ceux qui dirigeaient ici, soumis aux préjugés vulgaires de la nation, nous haïssaient comme Français et s'estimaient heureux des rigueurs dont ils pouvaient nous accabler à ce titre. Si je m'étais procuré les rapports de société avec le gouverneur, ce qui, j'ai eu des raisons de le croire, ne m'eût pas été difficile, je ne doute pas qu'ayant occasion de plaider ma cause tête à tête avec Lord Charles, je n'eusse réussi à obtenir ce que je demandais, parce que c'était de toute justice. Mais il n'était pas de ma situation de chercher à m'en approcher, et il était dans l'inclination de son entourage de l'empêcher de venir à moi. Il se fit bien annoncer plusieurs fois, mais il n'exécuta jamais son dessein. Mercredi 29 janvier au samedi 5 avril. Translation à Newslands, maison de campagne des gouverneurs, détails, etc. Aujourd'hui, de très bonne heure, avec une exactitude parfaite, ainsi qu'il avait été arrêté avec le colonel aide-de-camp, une voiture à 4 chevaux s'est trouvée à notre porte. Nous nous sommes mis en route, et en moins de 3 quarts d'heure, nous avons atteint Newslands, terrain neuf, maison de campagne des gouverneurs, qui pourrait passer pour une jolie habitation d'Europe. Il nous fut aisé de voir que quelques années s'étaient écoulées depuis son nom primitif, car elle était entourée d'arbres très élevés, d'un grand nombre de bosquets et de beaucoup de vergers en plein rapport. Un aide-de-camp du gouverneur nous en mit en possession avec toutes les formes de la politesse la plus recherchée. Et voulant me faire reconnaître le terrain, me disait-il, et m'expliquer toutes les circonstances environnantes, il me pria de le parcourir avec lui, ne disant pas un mot des limites ni des restrictions, et trouvant le moyen de glisser adroitement, que les soldats que je voyais n'étaient autres que la garde ordinaire du gouverneur et n'avaient pas d'autre consigne que celle qui existait pour lui, que je pouvais me regarder dans la maison comme chez moi, que tout y était à mes ordres, et il prit congé. Laissés à nous-mêmes et parcourant ces lieux charmants, nous nous disions être passés subitement d'une affreuse prison à un lieu de délices. Ces appartements soignés, des volières dans le voisinage, des oiseaux de toute espèce, des fleurs en abondance, ces bosquets nombreux, ces belles promenades, et avec tout cela, ce silence, cette solitude, le tout nous semblait quelque chose de magique. Nous trouvions qu'il y avait du zémir et azor. Tout dans la maison avait été mis à notre usage et restait dans l'état où il avait été occupé. Rien n'avait été mis de côté. Mon fils, en ouvrant une boîte à couleurs, aperçut un dessin, non encore achevé, d'une des filles de Lord Charles. C'était le portrait de l'objet révéré que nous pleurions, car où ne se trouve-t-il pas? Le modèle était à côté, une mauvaise esquisse, espèce de caricature prise à bord du Northumberland qui nous poursuit partout et que nous détruisons partout avec ce zèle ardent des missionnaires brisant les images des faux dieux. Dans sa verve, et pour début poétique, mon fils écrivit au bas du dessin difforme de Mademoiselle Somerset. Sous vos doigts élégants, tout devrait s'embellir, c'est aux belles surtout à peindre le courage. Du héros, des héros, du Mars, de l'avenir, comment avez-vous pu défigurer l'image? Et moi, j'y joignis une petite médaille, ressemblant ce plus fidèle de Napoléon. Puis nous resserrâmes soigneusement le tout, ravis de notre espièglerie et jouissant d'avance de la surprise de Miss Somerset, lisant un jour, sans colère, la censure que nous nous étions permis de faire de son dessin. Le gouverneur avait poussé l'attention jusqu'à faire venir pour moi de la ville un maître d'hôtel en titre qui devait prendre mes ordres pour ma nourriture de chaque jour, me disait-il, me donnant à entendre que je pouvais ordonner avec profusion. Mais j'avais pris des mœurs spartiates. Je le priai donc de borner ses soins au simple nécessaire. Et quant à lui, changeant sa destination, je l'établis dès cet instant mon lecteur, en quoi il me fut véritablement précieux. Du reste, par un hasard singulier, c'était précisément le neveu du seul habitant que je connusse à Sainte-Hélène, le cher Amphitryon, notre bon et ancien hôte de Briars, que j'aime beaucoup. En revoyant l'aide de camp qui nous visitait assez régulièrement, ayant charge express, disait-il, de veiller à notre bien-être, je le priai de faire parvenir nos remerciements et notre reconnaissance à Lord Charles Somerset pour toute la grâce dont il nous entourait afin de déguiser notre captivité, car c'en était toujours une, lui faisais-je dire, puisque malgré nous, nous pleurions loin de Sainte-Hélène et loin de l'Europe. Notre sortie de prison et notre établissement à Newlands furent pour nous une véritable révolution. Nous reçûmes des visites, beaucoup de personnes s'empressèrent de nous voir. Le général Hall, commandant en l'absence du gouverneur, vint, accompagné de sa femme, et qui, joignant à une très jolie figure les manières les plus douces et les plus agréables, parlait très bien le français. Son mari avait été 11 ans prisonnier en France, et elle était venue l'y joindre en dépit des grandes restrictions existantes entre les deux pays. Elle n'avait pas craint, pour y parvenir, de s'exposer à traverser la Manche, autant que je puis me le rappeler, en simple canot. L'un et l'autre se trouvaient de grandes connaissances avec beaucoup de mes amis de Paris. Le général Hall, d'une sévère franchise et d'une grande loyauté, me dit qu'il se trouverait heureux d'acquitter sur moi, sans songer aux différences d'opinion, tous les bons traitements qu'il avait généreusement éprouvés en France, et il tint parole. Je reçus aussi la visite du colonel Ware, dont la femme avait sa sœur mariée à un des membres du ministère actuel. Demeurant à un quart d'heure de Newlands, il venait me faire l'offre, disait-il, d'un bon voisinage, qui n'a cessé, en effet, de nous rendre des plus agréables par les communications les plus suivies et les plus aimables. Enfin, il n'est pas jusqu'à une femme des plus distinguées sous tous les rapports, et accidentellement dans la colonie, qui n'eût la charité chrétienne de venir visiter un captif, ce qu'elle renouvela plusieurs fois, et ce qui fut un inespérable bonheur. Car son acte de bienveillance était rehaussé de tout le prix d'une conversation charmante, de manière pleine de grâce et d'une modestie séduisante. C'était véritablement une fleur d'Europe égarée dans les bruyères du Cap. Il est encore une foule de fonctionnaires de toutes armes et de tous rangs qui s'empressèrent de venir visiter notre solitude et s'efforcèrent d'alléger nos peines avec une sympathie et un intérêt tout à fait touchants. La connaissance de leur bienveillance eût pu leur valoir alors de la part de leur ministre des désagréments et peut-être des destitutions, et aujourd'hui encore, quoi qu'il m'en coûte, je tairai leur nom à tout hasard. Mais qu'ils sachent bien qu'aucune de leurs paroles n'a été perdue pour mon cœur, je me sens né pour la reconnaissance. La curiosité s'y mêlait aussi. Il n'était point d'étrangers arrivant dans la colonie, tous les nombreux passagers de l'Inde surtout, qui ne voulussent visiter Newlands. J'étais un rayon échappé de Longwood. On tenait à voir celui qui venait d'auprès de Napoléon, tant il était constamment et partout dans tous les esprits et dans toutes les conversations. J'eus l'occasion alors de répondre à bien des questions qui m'étaient adressées sur sa personne, ce que je faisais toujours avec une étendue dans laquelle je me complaisais. Que de préventions je détruisais, que de surprises je causais. car il serait difficile d'imaginer aujourd'hui combien le défaut de communication des deux peuples pendant tant d'années, leur irritation mutuelle, avait accumulé sur l'empereur d'atroces mensonges ou d'absurdes niaiseries. Croirait-on qu'un militaire d'un rang distingué, de beaucoup d'esprit lui-même, me priait de lui dire franchement, entre nous, si Napoléon était capable d'écrire un peu? Il le supposait soldat et pas autre chose. Je crois en vérité qu'il n'était pas éloigné de douter qu'il sût lire. Je lui ris au nez et lui demandai s'il n'avait donc jamais eu connaissance de ses proclamations militaires. « Sans doute, répondit-il, mais il les avait supposées de ses faiseurs. » Et je l'étonnai beaucoup, et il convint n'avoir plus rien à dire quand je lui appris qu'à 27 ans, il était membre de l'Institut de France, réunion indubitablement la première, la plus savante du monde. Dès que j'avais été établi à Newlands, mon premier soin avait été de songer à envoyer à Longwood quelques-uns des objets que je savais y manquer. Je connaissais par expérience combien, dans ce lieu de douleur, on demeurait privé de toutes choses, surtout de celles qu'une longue habitude pouvait avoir rendues nécessaires ou agréables. Je savais qu'on y attachait peu de prix, il est vrai, mais c'était à moi, le cœur plein de ces souvenirs, à y pourvoir, me disais-je. Je fis donc rechercher ce qu'il pouvait y avoir de mieux en vin de Constance, vin de Bordeaux, café, liqueur, huile, eau de Cologne, etc., demandant des qualités extrêmement supérieures ou pas du tout. Le cap est encore très mal pourvu de nos délicatesses d'Europe. À l'exception du vin de Constance, qui est indigène, on ne trouva de tout le reste que peu ou même rien. J'avais eu la précaution de demander au général Hall s'il se prêterait à mon envoi, ce qu'il fit avec la plus grande obligeance. Il est vrai que, pour que ces petits objets présentassent le moins de difficultés possibles pour leur admission à Sainte-Hélène, j'avais voulu y demeurer tout à fait étranger. Je n'avais même pas voulu les voir, ayant prié des officiers de l'état-major d'avoir la bonté d'en faire la recherche et ne me réservant d'autre soin que celui du paiement. C'est avec ces précautions et en les faisant connaître à Sir Hudson Lowe que je lui adressai le tout. On lit dans M. O'Meara que ce gouverneur se montra très heurté de ma démarche, la disant injurieuse au gouvernement anglais. Et à moi, il me répondit dans le temps que, bien qu'il dût reconnaître que j'avais mis une grande réserve dans la manière de m'y prendre, cependant il ne pouvait permettre que ces objets fussent remis à Longwood, parce que lui seul était chargé, au nom du gouvernement anglais, de pourvoir à tous les besoins de cet établissement. Il oubliait s'être plaint maintes fois de n'avoir les sommes suffisantes et que nous, de notre côté, nous lui avions fait connaître souvent qu'il nous laissait manquer du nécessaire. Cependant, j'ai su plus tard qu'il avait fini par remettre le tout à sa destination, et j'ai eu l'inexprimable satisfaction d'apprendre que le vin de Constance, surtout, y avait fait plaisir. L'empereur se l'était particulièrement réservé. Il ne l'appelait plus que de mon nom. Dans ces derniers moments, dégoûté de tout, quand il ne savait plus que prendre, « Donnez-moi du vin de Las Cases, » disait-il. Quelle parole pour moi! Je renvoyai dans le même temps à Sir Hudson Lowe le titre éventuel que, dans les angoisses de mon départ, le grand maréchal m'avait remis contre les 4 000 louis laissés à l'empereur. Il portait que cette somme me serait remboursée sur le champ. Et comme je me refusais à le prendre, le gouverneur Sir Hudson Lowe m'avait dit ironiquement « Prenez toujours, vous irez où sont les fonds du général, et cela vous servira à vous faire payer. » Le souvenir de cette circonstance m'étant revenu plus tard, et ne doutant pas des rapports que Sir Hudson Lowe en aurait fait à ses ministres, je crus devoir lui renvoyer ce titre, tout en lui recommandant de bien vouloir redresser auprès de son gouvernement les commentaires erronés dont il n'avait sûrement pas manqué d'accompagner cette circonstance. Je ne m'étais réservé, lui mandai-je, que la simple signature comme plus précieuse que la somme même, et je rendais le reste pour détruire à ses yeux les fausses idées qu'il m'avait laissé apercevoir. Tout titre m'était inutile, ajoutai-je. Chacun des parents de l'empereur ne manquerait pas de se disputer sans doute l'honneur de me rendre ma somme, ou, au besoin, le premier Français que je rencontrerais m'en ouvrirait un compte. Deux mois déjà s'étaient écoulés à Nuslands, et, d'après ce que l'on a vu plus haut, bien des lecteurs seront tentés de croire que nos jours y avaient été heureux, mais est-il de bonheur dans la captivité, loin de la patrie? Seulement, nous y avions passé le temps le mieux que nous avions pu. Nous avions régularisé nos heures et distribué du travail. Mon fils continuait ses leçons. Le piano des demoiselles Somerset était une de ses diversions, et moi je me faisais lire beaucoup. J'avais des livres sous ma main et les amis me fournissaient régulièrement les journaux et les publications nouvelles. Le soir venu, mon fils et moi nous errions ensemble sous ces beaux ombrages, ou bien encore, comme il avait acheté un cheval, il faisait parfois des excursions dans le voisinage et rentrait en fournissant des courses devant moi dans les belles allées de Nuslands, où assis je me complaisais à le regarder. Il me semblait le voir revivre et se développer. Je dois le confesser, dans ces belles soirées d'été, entouré d'un firmament aussi pur, respirant une fraîcheur délicieuse sous ces beaux arbres, tout au spectacle ravissant d'une aussi belle nature, j'ai goûté parfois encore quelques heures pleines et entières. C'était mes adieux à la vie. La raideur d'âme à laquelle nous avaient monté les traitements de Sainte-Hélène, venant à se détendre sous les charmes d'un si beau ciel et de la tranquillité parfaite du lieu, je me suis surpris plus d'une fois à me dire « Que le reste de ma famille n'est-il ici ?» Ah, si encore l'empereur était aussi bien! Mais que ces moments d'oubli étaient rares et courts. Car, je le répète, il ne saurait être d'idée même de bonheur, de pleine et entière jouissance, loin de chez soi et des objets qui attachent. Si bien que l'on puisse être, d'ailleurs, on traîne partout le désert avec soi. Ce sentiment, l'impatience qu'il me causait, le besoin de voir finir mes peines, prenaient sensiblement sur ma santé. J'avais des insomnies constantes, devenues un véritable supplice. J'avais beau travailler et prendre de l'exercice, prolonger fort tard le moment de mon coucher, à peine au lit et malgré moi, je revenais aussitôt sur le chaînon écoulé. Je comptais un jour de moins de mon exil, et je m'attachais, involontairement, à calculer et recalculer le nombre de ceux nécessaires encore pour recevoir de Londres l'ordre de notre délivrance, les chances qui pourraient la retarder, etc. Et ces idées, une fois saisies de mon esprit, amenaient l'impossibilité absolue de clore l'œil, ce qui renouvelait pour moi chaque nuit un des tourments les plus cruels qui puissent s'imaginer. Cependant, le retour du gouverneur approchait, et je commençais à m'inquiéter d'avoir à me trouver ainsi avec lui dans sa maison, ne pensant pas qu'il pût être bienséant ni agréable pour l'un ou pour l'autre, d'avoir à confondre de la sorte, sous un même toit, l'hospitalité avec la réclusion. Mais mon embarras cessa bientôt. Soit réalité, soit prétexte, le secrétaire colonial vint me faire connaître que par l'arrivée prochaine de Lord Amherst, revenant de son ambassade de Chine, le gouverneur se trouvait obligé de me donner une autre demeure. Ce secrétaire colonial, dont je n'ai jamais parlé, bien que le second personnage civil de la colonie, était un homme tout à fait excentrique au physique et au moral. Il avait été membre de plusieurs parlements, était instruit de tout, dissertant sur tout, le plus souvent brouillant tout. Aussi disait-on assez plaisamment que c'était une encyclopédie dont on avait mêlé les feuilles à la reliure. Il se mit d'abord en tête de nous placer dans un établissement qu'il avait commencé et qui lui fait louer au gouvernement. Heureusement, nous échappâmes, parce qu'il s'y trouva des difficultés insurmontables, comme d'être obligé de s'y rendre par mer. Je crois, et ensuite de n'être pas sûr, une fois là, de pouvoir communiquer avec nous à volonté. Enfin, on se fixa pour notre nouveau séjour sur une honnête famille à 8 ou 10 lieues du Cap, à Tigerberg, donc montagne du Tigre, tirant son nom de la grande quantité de tigres qui s'y trouvaient au moment de l'occupation. Cette occupation n'était pas fort ancienne, car tous ces terrains n'appartiennent exclusivement à la civilisation que depuis assez peu de temps. Des personnes encore pourraient me dire avoir vu elles-mêmes des tigres apparaître dans les belles allées de Nuslands que nous occupions en ce moment. Il paraît que les Hollandais, se bornant à la mer, se sont occupés peu, ou du moins avec lenteur, des progrès d'une grande colonisation. Aujourd'hui, les choses vont changer de face sous l'industrie et l'activité des Anglais. tous ces pays, et la ville du Cap surtout, que les marins nomment l'auberge indispensable des deux mondes, sont infailliblement appelés à de hautes et brillantes destinées. Le sol y est riche et le ciel admirable. On peut cultiver presque partout à la fois, et les productions de la zone tempérée et celles des tropiques. Les émigrations anglaises accourent en foule, et l'étendue est sans bornes. La population doit s'y accroître rapidement. L'Europe envahit l'Afrique par le Midi, et la race européenne la couvrira dans l'avenir comme elle couvre déjà l'Amérique. Comme de Botany Bay, elle couvrira avec le temps la Nouvelle-Hollande, d'où elle subjuguera la Chine. La race européenne couvrira le globe et le régira. Heureux si elle expie par les bienfaits de la civilisation les crimes de la conquête ou l'impureté de l'origine. Dimanche 6 avril au mardi 19 août. Séjour à Tigerberg, le nom de Napoléon familier au désert, manuscrit de Sainte-Hélène, détails, etc. Nous avons quitté Newslands vers le milieu du jour et sommes arrivés à Tigerberg à la nuit. Notre nouvel hôte, M. Baker, né à Koblenz ou dans les environs, s'est trouvé comme un de nos compatriotes par son origine, ses opinions et sa sympathie. Toute la famille était à l'avenant et composée des meilleurs gens du monde. Il eût été difficile pour nous de trouver ailleurs plus de soins, d'égards, d'attention. Tous nos désirs étaient prévenus, devinés, accomplis. Alors commença la troisième époque de notre captivité au Cap. La première, au château, avait été une prison insupportable, heureusement elle ne dura que 10 jours. La deuxième avait été de plus de 2 mois à Newslands, séjour charmant, demeure des plus douces. La troisième, enfin, à Tigerberg, véritable désert, devait durer plus de 4 mois, et encore mes chaînes devaient-elles se prolonger ensuite. Ici, nous nous trouvions situés presque sur les confins des hordes errantes. Le pays était parsemé d'habitations isolées et à d'assez grandes distances, occupé par des cultivateurs de diverses nations, défrichant des terrains nouveaux pour se faire une fortune, ce à quoi l'on doit réussir indubitablement avec de la persévérance, de l'ordre et quelques premiers fonds. Toutefois, bien qu'aux extrémités du monde civilisé, nous trouvâmes presque aussitôt et partout plus que de la bienveillance. Nos événements européens n'y étaient ni inconnus ni indifférents. Ils y avaient été recueillis, même avec partialité, la majeure partie de la population se trouvant hollandaise et liée à notre système national. Aussi y trouvais-je, à mon grand étonnement, le nom de Napoléon des plus familiers. Le coq le plus fameux de la contrée, le plus souvent victorieux, s'appelait Napoléon. Le coursier le plus renommé, Napoléon. Le taureau le plus indomptable, Napoléon. Toujours Napoléon. Je ne pouvais m'empêcher d'en rire. Mais c'est qu'au fait, chacun a sa manière de vanter, de consacrer les héros, et ici on prétendait bien avoir donné le plus beau nom que l'on connût. Malgré notre éloignement de la ville, nous recevions pourtant quelques visites et il était doux pour nous de mesurer le degré d'intérêt par celui de la distance et des embarras. C'est dans ce désert que nous apprîmes le naufrage d'un de nos bâtiments français, l'Alouette, qui fit côte dans les environs du Cap. Je fus assez heureux pour y faire parvenir les preuves du vif intérêt que j'y prenais, car je n'ai jamais mieux senti qu'aux extrémités de la terre combien la patrie renfrère en dépit des troubles politiques. Déjà, pour mon compte, j'avais recueilli, avec la plus douce satisfaction, la preuve des mêmes sentiments à mon égard. Des compatriotes pénétrèrent mystérieusement jusqu'à nous dans le désert. D'autres, antérieurement, avaient franchi l'enceinte de Newslands au péril de leur sûreté et au détriment de leur fortune, pensaient-ils, pour venir me proposer des services. Il n'est pas jusque dans la prison resserrée de la ville où les soins ingénieux de quelques Français n'eussent pénétré. Et c'est dans de telles situations que de tels témoignages sont précieux et dignement sentis. Au demeurant, l'intérêt et la bienveillance ne se bornaient pas à nos compatriotes. Un capitaine américain me fit offrir de m'enlever de ma solitude. Il avait prévu tout, pourvu à tout, me faisait-il dire, je n'avais qu'à vouloir, car je n'avais qu'un hôte et non pas un geôlier. Mais à quoi cela m'eût-il conduit? Il n'était qu'un seul point, un seul but pour moi, Londres et le voisinage des ministres anglais. nous nous efforcions de passer le temps à l'aide de nos occupations habituelles. Je m'étais procuré un lecteur et je l'employais beaucoup. En dépit de la distance, nos amis continuaient à nous fournir les journaux et les publications nouvelles. C'est alors que je lus l'ouvrage de M. Hobhouse, le premier, je crois, qui ait parlé favorablement de Napoléon et ait hasardé d'en dire quelques biens. Celui du docteur Warden, fort erroné, bien qu'avec les meilleures intentions du monde, j'en suis sûr. Enfin, le fameux manuscrit de Sainte-Hélène qui a tant excité l'intérêt et la curiosité de l'Europe. On s'y est partagé chaudement, on s'y est épuisé en conjectures sur son authenticité et sa véritable origine. Mais l'étonnement, les incertitudes qu'il m'a causées à moi-même, les combinaisons qu'alors il me fit faire ne sauraient se rendre. Quels furent mes sentiments, ma surprise à cette lecture, où des pages de vérité qui me semblaient dérobées à mes propres secrets se mêlaient à d'autres pages pleines d'erreurs les plus triviales. Il fut des morceaux où je m'arrêtais, doutant que je fusse bien éveillé. J'en reconnaissais la substance, parfois des phrases entières, de propres expressions. Je me rappelais les avoir transcrites dans le temps de la bouche même du narrateur. Elles étaient dans les papiers mêmes que Sir Hudson Lowe avait retenus à Sainte-Hélène. J'aurais pu affirmer que toutes les grandes et belles idées, la haute politique, les hautes conceptions, tout ce qui attache et séduit dans le fameux manuscrit, se trouvait consigné dans mon journal et recueilli dans la conversation de Napoléon. Si ma lecture ne m'eût présenté que cela, je n'eusse pas douté un instant que l'ouvrage ne fût sorti de Longwood et directement, car les dates, à la rigueur, m'eussent permis ce calcul. 6 à 7 mois s'étaient écoulés depuis mon expulsion de Sainte-Hélène. Mais d'où provenait l'alliage qui s'y trouvait? C'était une bizarrerie dont je ne pouvais me rendre compte. Serait-ce, me disais-je, une infidélité commise sur mes papiers, dont certaines parties auraient été nouées par des mains étrangères? Mais outre que je repoussais tout d'abord cette injurieuse pensée, que je ne pouvais me permettre sans preuve, quelque apparence que ce fût, une autorité aussi ennemie qui publia de la sorte et dont le résultat, après tout, devait être favorablement en masse à l'illustre victime de l'ostracisme des rois. Du reste, quel vrai sentiment avait dicté cet ouvrage? Il est souvent équivoque. Quelles mains y avaient travaillé? Elles sont des plus contradictoires. Qu'a-t-on réellement prétendu? L'écrit présente plusieurs styles, plusieurs esprits, plusieurs échelles d'information. Sa composition semble et doit avoir été une marqueterie. Autrement, comment avoir été aussi familier avec les hautes conceptions secrètes de l'interlocuteur, celles de son cabinet, et se trouver si étranger à sa propre opinion sur des actes publics, opinion que tant de monde a pu tenir de lui, sur son premier mariage, la situation des Français en Égypte, le jugement du duc d'Enghien, etc. Celui-là qui aurait obtenu par lui-même des vérités si confidentielles pourrait-il être réduit à les mêler à des erreurs aussi vulgaires? Et si la force de tête de quelqu'un a pu le conduire à deviner ces grandes vérités, comment la justesse de son esprit ne l'a-t-elle pas porté à se procurer l'exactitude sur le reste? Enfin, je ne parlerai pas de cette recherche d'expressions singulières et de mauvais goût qui décèle un effort d'imagination si mal saisi. Je ne citerai pas non plus les nombreux et incroyables anachronismes. Toutes ces considérations et plusieurs autres encore me rendirent et m'ont conservé depuis la chose tout à fait inexplicable. Cependant, les jours couraient, et je ne voyais point de terme à mon exil. Le temps nécessaire pour recevoir des nouvelles de Londres était écoulé, mais rien ne venait. Une profonde mélancolie s'était saisie de moi, j'étais au désespoir. J'avais de constants et violents maux d'estomac, mes insomnies se perpétuaient, ma santé s'altérait de jour en jour, le mal faisait des progrès rapides. Alors se déclarèrent les maux de tête qui ne m'ont plus quitté. Déjà à Balcombe's Cottage et à Newslands, à la suite de longues et fortes préoccupations, j'avais éprouvé, mais à de très grands intervalles, comme un coup électrique, une véritable étincelle au cerveau que j'attribuais à la lassitude du travail, ce qui me le faisait interrompre, et c'était là tout. Mais ici, tout à coup, se manifesta une douleur continue, accompagnée, si j'étais debout, de légers étourdissements et parfois de maux de cœur. Voilà le commencement et l'origine d'un mal qui, depuis plus de 5 ans, a parcouru toutes les parties de ma tête sous les symptômes variés et avec les différentes nuances de douleur, sans me la laisser tout à fait libre un seul jour. Durant un temps, c'était des élancements violents et fort répétés, tantôt au-dessus d'un œil, tantôt au-dessus de l'autre, accompagnés d'un bruissement insupportable dans les oreilles. J'étais sourd, puis cela s'est passé tout à fait. À une autre époque, toute conversation, surtout pour peu que j'y misse de la chaleur, amenait aussitôt comme un gonflement dans le voisinage des oreilles, lequel m'embarrassait la mâchoire. J'en étais parfois à croire qu'il surgissait subitement de gros boutons ou espèces de petites bosses sous mes cheveux. Elles existaient réellement, mais très momentanément. D'autres fois encore, j'avais tous les muscles du cou pris et très douloureux. Cet état, en Allemagne, m'a conduit à une telle débilité qu'il m'était devenu impossible de m'occuper de quoi que ce fût, d'agir, même de dicter seulement quelques lignes. Toutefois, j'ai toujours pu supporter qu'on me fît la lecture sans inconvénient et pendant plusieurs heures de suite. J'ai vainement épuisé partout les conseils de la faculté. Aucun remède n'a jamais produit de soulagement immédiat. Et jusqu'ici, je n'en ai pas trouvé de plus efficace que de n'en faire aucun. Depuis mon retour en France, mon état s'était singulièrement amélioré et je gagnais chaque jour, à l'aide du repos et de la solitude, bien que pour peu qu'il m'arrivât de causer quelque temps ou de m'arrêter sur une pensée, ma souffrance revenait plus ou moins forte. C'était alors comme une main de plomb qui me comprimait le milieu de la tête. Dans mon état d'amélioration, apprenant qu'on se plaignait de nombreuses négligences dans les premiers volumes du Mémorial, j'ai voulu mettre un peu plus de soin à la rédaction des suivants. J'ai abusé du mieux que j'éprouvais, et je suis retombé dans un état pire peut-être qu'antérieurement, au point de m'être vu forcé d'interrompre plusieurs fois cette dernière livraison, et d'avoir eu souvent la crainte de ne pouvoir la terminer. Mais aujourd'hui, c'est plutôt débilité que douleur. Le plus léger travail réveille mon incommodité première et y ajoute une faiblesse extrême et subite en toute ma personne. J'ai grande peine à marcher, j'éprouve une hésitation, un frémissement dès que je me trouve debout. La terre semble me manquer, je chancelle, j'ai un léger mal de cœur et je dois m'appuyer dans la crainte de tomber. On a des vertiges à la tête, moi je croirais les avoir sous les pieds. Mais je reviens à mon sujet. Dans mon état d'incommodité nouvelle et chaque jour croissante, j'écrivis au gouverneur pour qu'il me fût permis de revenir à la ville, plus près du secours des médecins. Ce fut vainement. Lord Charles Somerset était devenu insensible pour moi. Dans toute l'impatience et l'horrible tourment que me causait la prolongation de ma captivité, j'avais renouvelé plusieurs fois, depuis mon séjour à Tigerberg et en termes violents peut-être, mes sollicitations auprès du gouverneur pour qu'il me laissât retourner en Europe. J'ai eu des raisons de croire que je l'avais parfois ébranlé. Soit justice naturelle de sa part ou toute autre cause, j'ai lieu de très certain qu'il n'était pas sans hésitation ni sans inquiétude à cet égard. Était-il bien convenable, en effet, se disait-il, qu'il fût devenu geôlier à la façon de Sir Hudson Lowe? Avait-il bien, après tout, le droit de me priver ainsi de ma liberté? Mais ces méchants conseillers étaient là pour le raffermir. Ne m'avait-on pas bien logé, bien nourri, lui disait-il? De quoi donc avais-je me plaindre? Et comment avais-je reconnu de si bons traitements et tant de bienveillance? En affectant de ne jamais sortir, de ne me montrer nulle part, pour mieux constater ce qu'il me plaisait, disait-il, d'appeler mon emprisonnement et sa tyrannie. Quelles avaient été les expressions de mes lettres, toujours si déplacées, si violentes? Car ils en avaient tiré grand parti contre moi, surtout dans une circonstance spéciale. À l'arrivée de Lord Amherst et de l'amical Plumpin, Lord Charles Somerset, dans l'intention peut-être de leur créer la facilité de me voir et de me questionner, ou pour tout autre motif, m'avait envoyé par une ordonnance, au fond de mon désert, une invitation pour un bal solennel donné, autant que je puis me le rappeler, à l'occasion de la fête du prince de Galles. L'ordre était d'attendre ma réponse. Je la fis sur la carte d'invitation même et dans des termes très durs. J'étais outré que Lord Charles Somerset semblât soupçonner si peu la situation affreuse dans laquelle il me retenait, et qu'il me jugeât capable d'aller à un bal dans l'état de deuil où je me trouvais. Enfin, concluait victorieusement le perfide entourage, si sa seigneurie avait fait une faute en me gardant, il était désormais trop tard pour en revenir, car il avait déjà été fait assez de mal, disait-on, pour demeurer toujours blâmable, et l'on aurait en outre l'air de n'avoir pas su ce qu'on voulait faire. Ce serait se condamner soi-même. Il valait donc bien mieux, tout considérer, laisser aller désormais la chance jusqu'au bout. Tant de circonstances réunies contre moi avaient concouru à m'aliéner tout à fait Lord Charles Somerset et allégrir au point de le porter, en cette occasion, en dépit de son naturel même, jusqu'à l'inhumanité. À la lettre que je lui adressais pour lui peindre l'état de ma santé et le besoin indispensable d'aller me faire soigner à la ville, il me fit répondre froidement par son aide de camp de service qu'il ne pouvait rien changer à ses résolutions, mais qu'il donnerait des ordres pour que j'eusse toute l'assistance médicale. Or, j'étais à 8 ou 10 lieues de la ville. Le médecin ne pouvait se présenter guère qu'une fois la semaine. Il ordonnait des remèdes qu'il eût fallu aller chercher à la ville, ce qui les rendait impraticables. Je perdis patience à la lecture d'une réponse qui me semblait bien plutôt une ironie barbare qu'un moyen de soulagement. Et dans mon indignation, m'adressant directement au secrétaire colonial, je lui écrivis que comme c'était par sa direction que j'avais été transféré chez M. Becker, j'avais l'honneur de le prévenir que, me trouvant dans l'absolu besoin du voisinage des médecins, j'allais, ne supposant pas qu'il pût s'y opposer, me rendre à la ville chez le docteur Leishing, beau-père de M. Becker, pour m'y faire traiter. Il se hâta de me répondre qu'ayant pris des ordres du gouverneur, son excellence me faisait savoir que ses instructions ne lui permettaient pas de me laisser venir au Cap. Mais je résolus de n'en tenir aucun compte, et j'écrivais de nouveau au secrétaire colonial qu'en dépit de sa lettre, à moins qu'on employât la force pour m'empêcher de sortir de Tigerberg, j'allais me mettre en route pour la ville, que rien n'était plus aisé que de me faire arrêter aux portes et de m'y tenir renfermé plus sévèrement que je n'y l'étais à Tigerberg, mais que j'aurais gagné du moins de me trouver à portée des médecins et de remèdes, que je pouvais ne pas attacher un grand prix à la vie peut-être, mais que je pensais qu'il était un certain devoir de la défendre. Heureusement, la permission de mon départ, arrivant enfin de Londres, se croisa précisément avec ma démarche. Autrement, je ne sais pas comment cela eût fini. Le gouverneur me fit savoir cette nouvelle, l'accompagnant de l'offre d'un logement préparé pour moi à la ville. Je le refusai et me rendis, ainsi que je l'avais annoncé, dans la famille du docteur Leishing, où je retrouvai tous les soins affectueux, la tendre hospitalité de Tigerberg dans un ménage patriarcal dont le spectacle et les vertus suffisent pour faire du bien. Mais alors commencèrent de nouvelles contrariétés. Je devais en être abreuvé jusqu'au bout. Le gouverneur, en apprenant que j'étais libre de partir, m'avait mandé qu'il se présentait 2 occasions et qu'il attendait que je lui fasse connaître mon choix. Je répondis immédiatement que la plus prompte serait pour moi la préférable. J'attendais donc avec confiance les derniers avis du gouverneur et mes passeports. Je gardai le lit. 2 jours se passèrent, l'un des bâtiments appareilla. Qu'on juge de mes angoisses et de mon supplice, surtout quand il s'éclaircit que le gouverneur n'avait plus rien à me dire, que c'était désormais à moi de me tirer d'affaire comme je l'entendrais. Je me récriai violemment sur ce qu'on m'avait fait manquer ainsi le premier départ, mais la chose était sans remède. Et comme il se trouvait en rade un gros bâtiment de transport ramenant en Angleterre un régiment d'artillerie, je suppliai le gouverneur de me permettre d'en profiter, à cause surtout des secours médicaux qu'il pouvait me présenter. Il fut répondu qu'il n'y avait plus de place. Vainement représentai-je, s'il se trouvait 2 officiers d'artillerie de plus, on ne les laisserait sûrement pas en arrière, et que si on avait 2 matelots à embarquer encore, ils trouveraient bien certainement leur place, qu'il ne nous en fallait pas davantage. Tous mes raisonnements furent inutiles. il me fut objecté que ce bâtiment touchait à Sainte-Hélène et que cette circonstance suffisait pour me l'interdire. Il fallut me soumettre à la force et borner le choix que m'avait si généreusement laissé le gouverneur au seul bâtiment qui existât en rade. C'était un très petit brick, véritable coquille, sur laquelle il s'agissait de faire 3000 lieues. N'importe, je ne balançais pas, je ne me serais plutôt jeté à la nage que d'attendre un seul instant. Le marché fut aussitôt et aveuglément conclu, je ne respirais plus que pour appareiller. Le capitaine de mon brick me prévint qu'il avait reçu ordre du gouverneur de m'interdire toute communication avec la terre si, dans le cours de sa traversée, il se trouvait dans l'obligation de relâcher, et, arrivé en Angleterre, de ne pas me laisser débarquer sans avoir pris les ordres du gouvernement. J'étais donc encore véritablement prisonnier entre les mains de cet homme, et pourtant on m'obligeait à lui payer la somme qu'il lui plaisait de me demander. C'était une circonstance si étrange, me semblait-il, que j'eus le désir de la constater dans la crainte qu'un tel récit de ma part ne pût laisser quelque doute. Aussi, m'adressant au gouverneur pour la dernière fois, en lui demandant nos passeports, je lui faisais observer cette singularité et je le priais de vouloir bien, par sa réponse, certifier que j'avais pourvu moi-même au paiement de mon passage à bord du brick, devenu par ses instructions ma nouvelle prison. Mais, comme on juge bien, je ne reçus que mes passeports et pas un mot de plus. Traversée en Europe, espace de près de 100 jours, mercredi 20 août au vendredi 15 novembre. Appareillage du cap, traversée, mouillage en Angleterre. Vers le soir, nous gagnons la plage, conduit par nos deux excellents hôtes de Tigerberg et du Cap, dont les soins hospitaliers, les attentions extrêmes et toutes les marques d'une véritable affection nous ont imposé une reconnaissance profonde. Il faisait calme, mais en mettant le pied dans le canot et comme par magie s'élève tout à coup un vent favorable. Nous nous écriâmes tous que c'était d'un bon augure, mais il fut loin de s'accomplir. On verra que la traversée devait être des plus longues et les approches de l'arrivage effrayantes et terribles. Nous atteignîmes le bâtiment, on leva l'ancre, et enfin nous fûmes sous voile pour cette route d'Europe tant désirée. Avec le moment de l'appareillage avait fini pour moi et pour mon fils la ville du Cap et les côtes d'Afrique. Non que le lendemain elles fussent déjà hors de vue, mais parce que nous demeurions ensevelis l'un et l'autre dans le fond du bâtiment, en proie à un mal de mer effroyable qui dura longtemps et dont nous crûmes que nous expirerions. Notre logement était si petit, si sale, si incommode. Notre brick n'était guère que de 200 tonneaux et de 12 hommes d'équipage, dont 2 mousses, encore à l'exception du capitaine et du bosseman, son second qui seul pouvait compter pour 2 bons matelots. Du cuisinier, vieillard impotent, tout le reste n'était plus que des enfants. Une telle exiguïté était d'autant plus sensible à mes yeux et devait réagir d'autant plus fortement sur ma disposition naturelle au mal de mer qu'au Griffon près, je n'avais jamais été que sur des vaisseaux de 74 montés de 700 à 800 hommes. Et toutefois, soit que cette secousse devint un remède naturel ou autrement, il est certain qu'en dépit de cette affreuse incommodité, malgré une nourriture exécrable, et dans l'absence et le besoin de toute chose, ma santé et celle de mon fils se trouvèrent bientôt sensiblement améliorées. Et puis, adressez-vous à la médecine. C'est que, comme le disait souvent l'empereur, l'homme est une machine à vivre, et que les fonctions de sa nature sont plus fortes encore que toute la science des hommes. Au bout de 13 jours de navigation, nous atteignîmes le tropique du Capricorne et les vents réguliers. 8 jours après, le dimanche 7 septembre, nous passâmes à la vue de Sainte-Hélène, mais à la distance de plus de 15 lieues, à peine pouvait-elle s'apercevoir. Il faudrait y avoir été comme moi, y avoir été conduit par les mêmes motifs, en avoir emporté l'affection et les autres sentiments que j'y avais puisés, pour soupçonner tout ce que ce voisinage me fit éprouver, les pensées qu'il fit naître, les regrets qu'il remua. J'avais eu en mon pouvoir d'y demeurer et j'avais choisi de m'en bannir moi-même. Aussi bien l'expérience du Cap me faisait craindre de ne m'être décidé que sur des chimères. Désormais nous voguions à l'aise vers la ligne, sur cette mer des tropiques, sur laquelle nous avions plus de 3000 lieues à parcourir. Notre petite barque composait tout notre univers. quel champ de méditation que de se trouver seul et durant près de 100 jours sur le vaste océan, sans autre abri que l'immense voûte des cieux, sur un atome flottant, séparé par une frêle planche seulement, et de la voracité des monstres et des abîmes sans fin. Quel élément pourtant notre audace s'est soumis, quels avantages n'a-t-elle pas su s'en créer? Ah, que l'homme est grand, que ses efforts sont sublimes, que ses succès sont admirables. Des myriades de poissons nous environnaient, et semblaient là plus spécialement dans leur empire. Parfois on eût dit que ce n'était qu'avec peine que le vaisseau allait se frayer un passage au milieu d'eux. Dans cette mer, généralement unie et tranquille, éternellement soumise au vent, toujours les mêmes, les voiles, une fois orientées, on n'a plus guère qu'à laisser aller. Aussi chacun des matelots employait la plupart du temps son oisiveté à tâcher de saisir quelques-uns de ces nombreux poissons qui nous entouraient, et leur succès, assez rare, était pour nous un grand objet de contentement et de joie. Nous étions si mal nourris et tellement au rebours de nos habitudes qu'un albicorne, une bonite, un dauphin, qui peut-être de leur nature ne sont pas fort bons, nous semblaient délicieux, et qu'une telle capture faisait le régal de tous. C'était une véritable fête. Nous aurions, je crois, mangé du requin. Que Dieu fasse paix du reste à notre cher capitaine pour la viande, le poisson salé et autres horreurs dont il nous empoisonnait régulièrement 2 fois par jour, en dépit de l'énorme rançon qu'il nous avait imposée et pour laquelle il nous avait promis si bonne chère et si commode logement. Mais une auge, un véritable fumier, 4 ou 5 gros pains, quelques douzaines de vieux coqs, telle fut toute sa magnificence, et voilà la bonne foi des corsaires. Le ciel en préserve ceux qui me suivront. Dans l'état d'isolement où nous nous trouvions, on n'en est que plus préparé à toutes les impressions, et c'était un bonheur pour nous, une véritable joie, à mesure que nous avancions, de découvrir une étoile de notre hémisphère natal, de retrouver toutes nos constellations d'Europe. Chaque soir, sous ce beau ciel, je donnais à mon fils des leçons d'astronomie. Le jour, il s'exerçait à des observations nautiques avec le capitaine, lequel nous dédommageait des sensualités corporelles sur lesquelles il nous avait fort trompés, en alimentant notre esprit par de longues et nombreuses lectures dont il s'acquittait au demeurant à merveille. Au bout d'un mois, le 20 septembre, nous rentrâmes enfin dans notre hémisphère septentrional en traversant l'équateur presque en même temps que le soleil qui descendait vers le midi à contrebord de nous. Nous dépassâmes avec beaucoup de bonheur le voisinage nord de la ligne, où les calmes et les orages sont infaillibles. Là, la fournaise de l'équateur, se combinant avec la fournaise des sables africains, conspire de concert pour tourmenter, troubler la nature, qui exprime sa lassitude par des calmes prolongés, ou se réveille par des torrents de pluie et des éclats de tonnerre terribles. 25 jours après, nous dépassâmes le second tropique et atteignîmes les confins de nos vents variables. Nous avions quitté le cap en hiver, et après avoir traversé la zone embrasée des tropiques, nous retrouvions de nouveau l'hiver aux portes de l'Europe. Ainsi, des tempêtes stationnaient aux 2 extrémités de notre course. Nous avions heureusement esquivé celle du départ, restait celle de l'arrivée, nous les trouvâmes à leur poste et furieuses. Au bout d'une 20aine de jours, de vent variable, insignifiant, incertain, nous arrivâmes à la vue des Açores. Notre voyage avait acquis déjà le caractère d'une extrême longueur. Il n'est pas sans exemple qu'on se soit rendu du cap en Angleterre en 30 jours. La traversée commune est de 50. Nous tenions la mer depuis plus de 80 jours et nous n'en étions encore qu'aux grandes difficultés. En effet, à la vue des Açores commencèrent nos tribulations, ce que nous appelâmes notre semaine de la passion. Le 1er novembre, premier coup de vent, modéré, il est vrai, mais comme pour commencer et nous mettre en train. Le 2, calme pour respirer. Le 3, second coup de vent, supportable encore, mais dans la nuit, qui se trouvait des plus obscures, 3e coup de vent, et cette fois, véritable ouragan. Le vent saute avec une détonation terrible de l'arrière à l'avant, soufflant avec furie. Il prend à revers le peu de voile que nous portions, et en un instant, aussi rapidement que la pensée, le côté du vaisseau est dans l'eau, la mer atteint presque le pied des mâts. Une grande partie des tonneaux de sa cargaison sont culbutés et viennent ajouter par leur poids à l'inclinaison déjà si effrayante du bâtiment. Heureusement, le vent dévore les voiles qui lui sont abandonnées, autrement nous achevions de sombrer. Chacun se croyait noyé, et nous devions l'être. Le destin l'emporta, notre heure n'était pas venue. Nous eûmes le bonheur de surnager. C'est un accident de la sorte, et peu après, dans les mêmes parages, qui en 1782 submergea la ville de Paris et quatre autres vaisseaux de 74. Notre capitaine et son second, naviguant depuis 20 ans, nous assuraient d'avoir jamais éprouvé un vent aussi violent. Un plus fort serait impossible, disait-il. La mer en était blanche et lumineuse aussi loin que la vue pouvait s'étendre. Ce coup de vent, qui dura 3 heures dans sa plus grande force, se prolongea toute la journée du 4 et une partie du lendemain. Le 5, la fin du jour devint insupportable, mais ce n'était qu'un répit. Le 6, quatrième coup de vent, soufflant avec violence tout le long du jour. Il va croissant dans la nuit. Nous sommes obligés de fuir devant lui. La mer est furieuse, elle s'empare du pont, on est obligé de fermer hermétiquement l'ouverture par laquelle nous sortions de notre cabine, et nous demeurons enfermés au fond du bâtiment à la seule lueur d'une lampe lugubre. C'était l'antre de Neptune qui menaçait de devenir bientôt celui de Pluton. Nous étions littéralement sous l'eau dont les vagues ondulaient sur notre tête. Cet état dura tout le jour du vendredi 7. Malade de la mer depuis longtemps, je n'avais pas bougé de mon hamac. Sur les 4 heures de l'après-midi, je profite d'un moment d'embellie pour essayer de me traîner à l'issue de notre hideux refuge et y considérer un peu l'état des choses. Et vraiment, le spectacle était grand, sublime, imposant, terrible. Le vaste océan, ombragé d'un ciel rouge de fureur, hérissé d'innombrables montagnes rugissantes, sillonné de profondes vallées et d'abîmes sans mesure, formait un ensemble qui saisissait d'une sainte horreur. Notre petite barque glissait avec une admirable rapidité entre 2 montagnes mouvantes dont les bords venaient se mêler souvent sur notre pont, menaçant à chaque instant de s'y réunir pour notre destruction finale, tandis que par derrière, de longues et serpentueuses vagues, semblables aux monstres fantastiques de la fable, nous poursuivaient avec une incessante ardeur, élevant leur tête hideuse au-dessus de notre poupe, d'où elles semblaient plonger sur nous pour contempler leur proie qui leur échappait toujours, mais non sans qu'elles nous enlevassent par-ci par-là des bois de nos parties supérieures. Dans cet état, le péril était des plus éminents. On se parlait peu, on se considérait en silence, on laissait courir le temps. Il était certain qu'il suffisait d'un faux coup de gouvernail, de la plus petite inattention, de la plus légère négligence, pour nous engloutir à jamais. Si nous eussions été atteints par une de ces redoutables vagues de derrière, elle l'eût tout entraîné sous son poids. C'est même ce que nous avions à redouter davantage. Nous fûmes menacés plus d'une fois d'être enfoncés dans notre retraite. Le choc des vagues frappait sur nous avec la véritable détonation du canon. Nous les voyions avec effroi faire des progrès sur nous, et une grande partie de la nuit terrible qui suivit fut employée à nous retrancher et à nous renforcer contre elles. Mon fils, qui ne pouvait ni se coucher ni dormir, montait souvent aux nouvelles et revenait ensuite près de moi, qui demeurait gisant sur mon hamac. Dans la longueur de cette nuit cruelle, ne sachant que faire pour nous distraire de notre situation, et afin de tromper le temps, s'il était possible, j'essayais un moment de dicter à mon fils. C'était un morceau d'histoire ancienne. Mais bientôt, une vague, dans un de ces enfoncements partiels, vint inonder mon hamac et le papier de mon fils. Nous nous crûmes à notre dernière heure. Il me saisit la main, disant avec assez de gaieté, « Du moins, nous nous enfoncerons en bonne compagnie, nous descendrons avec nos Grecs et nos Romains. » Il est sûr, pour le dire en passant, que je pus voir mon fils supporter ces crises vraiment effrayantes, de manière à en être plus que satisfait. Il les considérait avec calme, les suivait avec curiosité et en parlait librement. Et ce que peuvent seulement quelques mois de plus sur notre machine, ce que peut pourtant la force des muscles sur la force des sensations. C'est dans cette situation-là même, et dans tout le sang-froid dont il me donnait la preuve, qu'il me disait que, dans la route à Sainte-Hélène, à bord du Northumberland, pas plus d'un ou 2 ans auparavant, il avait passé plusieurs nuits blanches dans son lit, et fort malheureux par la seule crainte d'être submergé durant son sommeil. Si faible alors qu'il n'avait même pas l'apparence du danger, si intrépide aujourd'hui quand la mort pouvait être regardée comme certaine. Il arriva même que son attitude en cette occasion fut importune à notre capitaine, qui, un moment, la traita de scandale. Notre capitaine, que nous avions cru être un loup de mer, et qui, à l'essai, ne se trouva rien moins que cela, qui, dans l'excès du péril, avait tout abandonné à son second, et, dans son découragement, demeurait étendu sur son lit, rêvant sans doute à ses péchés, à ses voleries sur nous peut-être, car on connaît la dévotion, les scrupules des matelots en péril, cet homme, dis-je, retrouva ses forces pour faire une scène à mon fils, sur ce qu'il s'était permis, disait-il, une expression gaillarde, et osait fredonner un air en cet instant. Ce qui, disait-il, et dans la situation terrible où nous nous trouvions, était fait pour offenser Dieu, que son inexpérience et sa jeunesse seule pouvaient lui avoir caché le danger où nous étions depuis 8 jours de finir à toute minute. Et en ceci, il disait vrai. Au demeurant, tout ce qu'on vient de lire ne devait pas encore être la limite de nos dangers ni le terme de nos craintes. La tempête durait toujours et semblait croître encore. Enfin, le samedi 8, vers le matin, l'homme qui tenait le gouvernail à titre le plus adroit, le plus intrépide dans l'équipage, déclara qu'il ne s'en chargerait plus. Les étourdissements le gagnaient, disait-il, et il craignait que quelque faute de sa part ne devînt funeste à tous. Alors il fallut avoir recours à la dernière ressource, celle de mettre à la cape, c'est-à-dire de faire venir le vaisseau en travers du vent, manœuvre des plus délicates dans la situation désespérée où nous nous trouvions, parce qu'on courait le risque d'être englouti en l'exécutant. Toutefois, la providence fut de nouveau pour nous. Nous y parvînmes avec le plus rare bonheur, et un cri fervent de reconnaissance et de joie de tout l'équipage nous l'a pris en bas. Nous nous estimâmes des plus heureux, bien que d'être engloutis désormais par le travers au lieu de l'être auparavant par le derrière fût la principale différence. Pourtant, il est vrai de dire qu'à peine nous fûmes dans cette nouvelle attitude que le vaisseau se trouva, par rapport à ce qui venait de cesser, comme s'il fût arrivé au port. Pour moi, j'avais vu prendre à regret la détermination de changer de route, car nous interrompions là notre course vers le dénouement de nos maux. Mais à peine me fus-je trouvé un peu plus à mon aise que rien dans le monde n'eût pu m'amener à reprendre la situation que nous venions de quitter. C'est que, dans l'état désespéré où nous nous trouvions depuis tant d'heures, on finit par prendre son parti, mais que, dès que la confiance revient, on répugne extrêmement à se résigner de nouveau. Ce terrible coup de vent durait depuis 3 jours. Notre semaine se complétait. Je comptais beaucoup sur le dimanche qui allait commencer, non seulement à cause du changement de lune, mais aussi à cause de la bienveillance toute particulière dont ce jour avait été constamment pour nous depuis notre départ. Et nos espérances ne furent point déçues, car dans la nuit du samedi, le temps devint insupportable, et au jour, nous pûmes nous mettre en route. Il est sûr que, par un concours singulier, les dimanches, depuis le cap, avaient toujours été marquants et heureux. C'était un dimanche que nous avions passé le tropique du Midi et gagné les vents alizés, c'était un dimanche que nous avions vu Sainte-Hélène, un autre dimanche que nous avions atteint l'Ascension, un dimanche que nous avions coupé la ligne, un dimanche que nous avions franchi le second tropique, un dimanche que nous avions gagné la hauteur de Gibraltar, premier point de la grande patrie européenne. Enfin, c'était un dimanche que nous étions arrivés à celle de Bayonne ou de Bordeaux, commencement de notre chère France. Et c'était un dimanche encore où, en cet instant, nous finissions cette terrible semaine à la hauteur de Brest. Nous pouvions, en toute justice, compter désormais sur quelques beaux jours, nous disions-nous. Il nous semblait avoir assez chèrement payé notre tribut. Nous espérions avoir épuisé la fureur des vents. La sonde nous rapportait du fond européen. Nous ne rêvions plus qu'un beau reste de voyage. Vain calcul. Notre heureux dimanche écoulé arrive un cinquième coup de vent. Cependant, nous commencions à être engagés à l'entrée de la Manche, bien que sans avoir eu pourtant encore connaissance de terre, ce qui faisait que notre véritable position nous était inconnue. La prudence commandait de reprendre le large. Heureusement, cela ne fut pas long, et remettant en route, nous arrivâmes enfin à la vue du cap Lézard. Mais il était dit que nous ne pouvions avoir 24 heures heureuses. Un épais brouillard succède presque aussitôt, et un sixième coup de vent se déclare sous les apparences les plus sinistres. Il venait du sud et nous mettait en perdition. Nous nous trouvions engagés désormais et sans abri. D'un côté, nous donnions sur le cap Lézard, l'autre nous conduisait vers les îles Scilly, extrêmement dangereuses. La mer était des plus grosses, nous n'avions pas une connaissance précise des lieux, la nuit venait, et elle était de 14 heures. Que de sujets d'inquiétude, quelle perplexité pour l'imagination et le calcul. La tristesse était grande et le découragement complet, quand un violent orage de pluie, accompagné de tonnerre, bien qu'au milieu de novembre et par un grand froid, vint enfin comme nous désensorceler. Le vent saute tout à coup du bon côté et, pour cette fois, termine tous nos embarras en nous conduisant dans la rade des dunes où nous jetons l'ancre. Heureux, 100 fois heureux d'avoir échappé à de si terribles et si nombreux dangers. Plus tard, en Allemagne, lisant les papiers anglais, nous y trouvions chaque jour l'annonce des plus grands malheurs arrivés précisément à la même époque et dans les mêmes parages. Un vaisseau avait sombré, l'autre avait été englouti, un autre avait été vu flottant sur le côté, sans mât et sans créature vivante, un autre avait péri corps et biens à l'arrivage. La saison était citée comme des plus affreuses, les accidents étaient sans nombre, et il faudrait y avoir été exposé comme nous pour deviner les impressions sympathiques que nous causaient de pareils récits et les vives actions de grâce à la Providence que chaque fois il réveillait en nous. Voyage de la Tamise à Francfort, espace de 20 jours. Du 16 novembre au 11 décembre, on m'interdit l'Angleterre, déportation à Ostende, persécution en Belgique, en Prusse, etc. Douce compensation, arrivée à Francfort. Nous n'avions la veille jeté l'ancre aux dunes que pour passer la nuit. Au jour, nous avons appareillé pour donner dans la Tamise. Notre destination était pour Londres. Aucun accident ne semblait plus pouvoir me l'interdire désormais, et déjà je calculais l'heure de l'arrivée. Toutes mes espérances pouvaient enfin se réaliser. Je reprenais toute ma confiance, mais combien je me trompais. Arrivé à Gravesend, où stationne un vaisseau spécialement chargé de la police des étrangers, un agent de l'autorité, à mon seul nom, me signifia que je ne pouvais pas aller plus loin et que je devais le suivre immédiatement avec mes effets à bord de l'Alien Ship, le vaisseau des étrangers. J'eus beau me récrier, lui faire voir combien mon passeport me mettait en règle, c'était là précisément la pièce de ma condamnation. On m'a appris depuis que, longtemps avant mon arrivée en Angleterre, cette mesure avait été ordonnée pour moi dans tous les ports. Une fois à bord de l'Alien Ship, on mit le scellé sur mes papiers, et l'on me dit que je devais attendre les derniers ordres du gouvernement. J'avais écrit à Lord Bathurst, dès l'instant de notre mouillage aux dunes. Je lui écrivis de nouveau en cet instant. Je ne savais pas ce qu'il voulait faire de moi, mais il me paraissait impossible qu'il ne s'empressât pas de me faire paraître devant lui. Il ne pouvait surtout m'entrer dans la pensée qu'il se refusât, à cette occasion si favorable, d'entendre contradictoirement tout ce qui se serait passé à Sainte-Hélène. Or pourtant, on va voir que c'est précisément ce qui arriva. À la réclusion près, on m'avait traité à l'Alien Ship avec toutes sortes d'attentions. Le capitaine, qui, ayant fort peu à faire depuis la paix, n'y paraissait que le jour, me destina son propre lit. Harassé de ces nouveaux contretemps, souffrant de mes maux habituels, et dans l'ennui de ma nouvelle prison, je m'étais couché de bonne heure, lorsque je fus éveillé tout à coup, dans le milieu de la nuit, par une voix glapissante. « Comte, comte !» s'écriait quelqu'un qui me cherchait partout, et qui, dans son empressement, ne s'était même pas donné le temps de prendre de la lumière. « C'est le plaisir du prince régent que vous quittiez à l'instant la Grande-Bretagne !» Encore dans le vague de mon sommeil troublé, il m'échappa de répondre « Assurément, voilà qui est bien triste et sot plaisir pour son Altesse royale. Mais vous, monsieur, qui êtes-vous » Et il m'apprit qu'il était messager d'État ou des ministres. Je lui dis de vouloir bien aller attendre que je me trouvasse prêt et j'essayais vainement d'achever ma nuit. Au point du jour, on me fit descendre avec mon fils dans un bateau. Nous fûmes débarqués avec mystère, on nous emballa dans une chaise de poste et l'on se dirigea par la route la plus courte sur Douvres, où mon conducteur me dit qu'il avait ordre de me déposer, à mon choix, dans le paquebot de Calais ou d'Ostende, les deux seuls points sur lesquels il me fut permis d'opter. À Douvres, il se trouva, par un motif ou par un autre, que nous ne pûmes appareiller immédiatement, et il me fut dit que ce ne pourrait être même avant 2 ou 3 jours. On nous enferma dans une auberge où, sous les efforts apparents de m'être agréable, notre gardien exécuta sur moi la plus basse des manœuvres. Si l'on se plaint sur le continent des mesures ignobles de la part d'agents de police, celui auquel nous avions affaire en cet instant ne demeure assurément pas en arrière de ceux d'aucun pays. Comme il m'arriva de prononcer par hasard qu'il était bien fâcheux qu'on eût mis les scellés sur mes papiers, parce qu'autrement j'aurais profité de mon séjour pour écrire quelques lettres, il se récria sur la dureté qu'il y aurait à me priver de cette satisfaction qui était des plus innocentes et des plus justes, disait-il, et il courut lui-même briser les scellés et me remit tous mes papiers, m'exhortant à tâcher d'alléger un contretemps dont il était fâché d'être l'instrument. Eh bien, tout cela n'était qu'un piège pour se ménager la satisfaction de saisir ce que j'aurais écrit dans la confiance qu'il m'aurait inspirée. Cet homme, durant les jours que nous fûmes ensemble, n'avait cessé de faire le bon apôtre auprès de nous, tout en nous débitant, il est vrai, cent impertinences qui m'avertissaient assez de toute sa turpitude. Il me disait par exemple que lui et les siens se faisaient un devoir de ne pas connaître d'autre loi que le plaisir du prince. Il me parlait de son maître, Lord Sandmouth, le ministre de l'Intérieur, de son maître qui avait précédé Lord Sandmouth, et ainsi de suite. Et comme pour me moquer, je disais que j'avais cru qu'il appartenait au ministère et non au ministre. Il me répondait de la meilleure foi du monde que je me trompais, que c'était au ministre qu'il appartenait, car c'était lui qui lui donnait ses appointements et pouvait les lui retirer, ajoutant d'autres sottises pareilles qui tenaient bien plus du nègre esclave de la Jamaïque que d'un blanc européen citoyen de la Grande-Bretagne. Ce qui du reste m'eût été fort égal si ces nobles principes ne s'étaient pas exercés sur ma personne, ainsi qu'on va le voir. Au moment précis du départ, lorsque j'allais me mettre en marche, cet homme, jusque-là si complaisant et si obséquieux, me dit d'un air assez insolent qu'il avait une petite formalité à remplir vis-à-vis de moi, et s'emparant de tous mes effets, il fit, dans mon linge et sur tous mes vêtements, les recherches les plus minutieuses, se saisissant de tous mes papiers, sans aucune formalité quelconque, se refusant même à toute espèce d'inventaire. Je poussai les hauts cris, je réclamai des magistrats. J'exigeais que l'on reçût au moins mes protestations. Mais il me fut répondu que dans la situation où je me trouvais, et vu ma qualité d'étranger, je demeurais en dehors du bénéfice des lois que j'implorais, et il me fallut partir de la sorte, laissant néanmoins après moi la lettre suivante à Lord Sandmouth. « Milord, c'est avec le plus vif regret que j'ai l'honneur d'écrire à votre seigneurie, certain que je ne serai plus à temps de recevoir sa réponse qui peut-être comblerait mon désir. » Depuis 4 jours, je me trouve entre les mains de votre messager, qui, à son arrivée, a fait lever le scellé qu'on avait apposé sur mes papiers, me disant qu'il les remettait à ma disposition. Depuis, il m'a vu écrire, m'y a encouragé même, et a attendu le moment du départ pour saisir en votre nom jusqu'au dernier de mes papiers. C'est un piège, milord, qui n'entre nullement dans mon cœur de faire remonter plus haut que l'homme qui l'a exercé. Ce messager n'entendait que l'anglais, il s'est aidé d'un second, se donnant pour entendre tant soit peu le français, lequel a voulu lire mes papiers un à un, et encore les garder tous. Il y aurait eu pour 8 jours de lecture, et je ne pensais pas qu'un simple particulier eût un pareil droit sur moi. On m'a tout retenu, lettres, notes, cahier d'études de mon fils, titre de propriété, secret domestique, pièces officielles de Sir Hudson Lowe et de Lord Charles Somerset, mes agendas particuliers, et jusqu'à une lettre au ministre de la police de France et une autre à ma femme, que dans mon oisiveté ici j'avais déjà dictée pour pouvoir les expédier en abordant à Ostende. On m'en a séparé sans vouloir en faire l'inventaire ni les côtés. C'était l'ordre de votre seigneurie, disait-on. Dans le premier moment d'indignation, j'ai protesté contre une telle violence et demandé qu'un magistrat pût recevoir ma plainte. Je ne consignerai pas ici la réponse qui m'a été faite. Revenu à moi, ne redoutant rien autant que de voir mon nom mêlé à des discussions publiques, et réfléchissant qu'il était impossible que votre seigneurie eût ordonné une pareille déviation de toutes les jurisprudences du monde, qui veulent que l'autorité se mette en garde contre celui qui, dans un pareil cas, pourrait prétendre qu'on lui a soustrait ou ajouté quelques pièces, je me suis restreint à supplier, de toutes les manières et par tous les arguments possibles, le messager qui ordonnait de mes destinées de vouloir bien retarder mon départ jusqu'à ce que j'eusse pu écrire à votre seigneurie, et qu'il pût lui-même obtenir la confirmation de ses ordres rigoureux. Cet homme, qui avait retardé 3 jours sur de légers motifs, s'est montré inflexible dans cette circonstance grave. J'ai eu beau lui représenter que je n'avais nulle objection à laisser voir tous mes papiers aux personnes confidentielles que votre seigneurie aurait nommées à ce sujet, mais qu'il était dans les intérêts mêmes de votre seigneurie qu'on observât certaines formes à mon égard. Que dans l'examen des papiers, ma présence serait utile, sinon absolument nécessaire, pour donner des explications sur bien des choses qu'on ne saurait comprendre sans moi. Mais que, cependant, il jetait ma personne sur le continent et envoyait mes papiers à Londres. Qu'il était à craindre qu'il n'y eût quelque méprise, que 24 heures éclairciraient tout. Il m'a été répondu, froidement, que je ne devais pas être inquiet d'un retour du continent s'il était nécessaire, parce que vous en payeriez les frais. Dans quelles mains, Milord, votre seigneurie m'a-t-elle placé? Dans une autre circonstance, et bien sûrement contre votre intention, j'ai été dans l'obligation d'imposer silence à celui qui me gardait à cause de ces grossières injures sur l'illustre personnage que je vénère le plus au monde. Enfin, Milord, depuis que j'ai abordé vos rivages, j'ai été traité comme un malfaiteur. Et pourtant, quel est mon crime ? La différence d'opinion politique, à ce qu'on pourrait croire, et une captivité volontaire à Longwood ? Mais ce dernier acte n'est-il pas des plus nobles, des plus généreux, et tellement honorable qu'il n'est personne qui, dans le fond de son cœur, ne se trouve fier d'en avoir donné l'exemple ? Milord, la douceur de nos mœurs et la justice naturelle qu'on donne à votre seigneurie n'ont pu autoriser tout ce qui m'est arrivé, j'en suis sûr. J'ai obtenu, et je me suis empressé d'apposer mon cachet sur les papiers qui m'ont été enlevés. Non pour me prémunir contre votre seigneurie, mais au contraire pour remédier dans ses intérêts aux défauts de forme qu'auraient pu commettre ses agents. Je supplie votre seigneurie de revenir sur ce qui me concerne et de ne pas prononcer sur mes papiers sans avoir de moi des éclaircissements qu'elle pourrait désirer et qu'elle recevra en toute satisfaction. J'affirme d'avance qu'il n'en est pas un, quelle que soit la différence d'opinion et de sentiment qu'on y rencontre, qui ne puisse supporter l'investigation judiciaire ou les discussions à l'amiable. On ne saurait y trouver rien d'intéressant en matière d'État ni de secret en politique. Je n'ai jamais eu aucune chose de ce genre, et si j'en avais possédé, les occasions ne m'auraient pas manqué pour les avoir soustraites depuis longtemps. Ce serait peut-être ici le cas, Milord, de mentionner en même temps à votre seigneurie les papiers qui m'ont été retenus à Sainte-Hélène, ainsi que beaucoup d'autres objets dont j'aurai à entretenir votre seigneurie ou Lord Bathurst. Mais le peu d'instants qui me sont laissés et le désordre d'idées qu'amènent les circonstances aussi subites et aussi imprévues me le font remettre à un autre moment. Je vais attendre avec anxiété que votre seigneurie daigne m'honorer d'une réponse, dans quel lieu, je ne sais, à Bruxelles, si on me permet d'y demeurer. J'ai l'honneur d'être, etc. On me jeta dans un paquebot et je fis voile pour Ostende. Et ici, puisque je me suis permis parfois de parler de mes souffrances physiques, qu'on me pardonne si, pour donner une plus juste idée des souffrances que j'avais dû éprouver dans ma longue traversée, j'ose faire remarquer que, malgré les 100 jours que je venais de passer sous voile, et bien que le temps ne fût pas précisément mauvais, je trouvais néanmoins le secret d'être encore malade de la mer à bord de mon paquebot, ce qui assurément était bien ridicule, mais n'en était pas moins. Dès le lendemain, j'atteignis Ostende et débarquai sans que personne ne m'eût rien dit. Je crus pour cette fois encore toucher au terme de mes maux et avoir recouvré ma liberté, mais je me trompais de nouveau. Des persécutions d'une autre espèce allaient au contraire commencer. Et ce n'est pas toutefois que je n'eusse à me louer beaucoup des premiers instants. À mon auberge, et sans que je sache comment on avait pu me deviner, un agent de l'autorité locale vint me dire qu'il avait ordre de me garder en surveillance et qu'il s'était fait un devoir de venir me demander comment je voulais que cette formalité fût remplie. Depuis longtemps, je n'étais pas fait à des manières si polies, aussi ce fut mon observation, ajoutant qu'il me suffisait d'une telle démarche pour m'abandonner en toute confiance à ce qu'il lui plairait de faire de moi. Et comme sa politesse avait donné lieu d'allonger entre nous une conversation dont sa curiosité semblait avide, il lui arriva bientôt de me dire qu'il allait me faire une question bien indiscrète, déplacée peut-être, mais qu'il ne résistait pas à savoir s'il était vrai que j'eusse quitté Napoléon, parce que le malheur l'avait aigri au point qu'on ne pouvait plus vivre avec lui. Car les papiers ministériels anglais avaient répandu 100 fables à mon sujet, toutes plus ridicules les unes que les autres. Je lui répondis en souriant, « Monsieur, si j'avais aucun mal à dire de Napoléon, si j'avais la moindre plainte à faire de lui, croyez que vous ne me garderiez pas en cet instant et que je serais loin d'être maltraité nulle part. » Sur quoi il se récria à son tour et se frappant le front que c'était une réponse qu'il eût dû se faire à lui-même, et il n'en devint que plus affectueux pour moi. Du reste, ayant appris de moi que mon intention était de me rendre à Bruxelles, il m'imposa, en me quittant, d'autres conditions à mon entière liberté que de ne pas partir sans l'en avoir prévenu, m'assurant d'ailleurs qu'une décision à mon égard ne pourrait tarder 24 heures, un courrier ayant été expédié au gouverneur de la province et son prompt retour devant suffire probablement pour me laisser entièrement libre. J'employai le retard qui m'était imposé à écrire aux deux ministres de la police de France et des Pays-Bas relativement à la situation dans laquelle j'allais me trouver désormais. « Monsieur le comte, disais-je à celui de France, je crois bien faire, en abordant sur le continent, que d'instruire votre excellence des circonstances qui me concernent. J'espère qu'elle approuvera les motifs qui m'y déterminent. Depuis un an que j'ai été arraché soudainement de Longwood, je me suis promené en captif de rivage en rivage. À mon entrée sur la Tamise, il m'a été signifié de repartir à l'instant pour le continent, ne me laissant d'autre choix que Calais ou Ostende. Un sentiment de délicatesse et de prudence m'a fait préférer Ostende. De tous les pays, la France était celui où il était le plus naturel de surveiller mon apparition. J'ai voulu, monsieur le comte, épargner ce soin à votre département et m'éviter à moi-même les inconvénients qui auraient pu en être la suite. Cette double considération m'a fait adopter le parti cruel de m'exiler volontairement. Un autre motif s'y est joint encore, c'est la facilité dont j'espère jouir ici, en dehors de toute idée politique, dans le seul sentiment de mes affections privées et personnelles, par la voie légale qu'admettent les règlements d'Angleterre et sous le couvert même de ses ministres, de procurer quelque adoucissement et des consolations innocentes aux martyrs de Longwood. Ces devoirs pieux et sacrés auraient pu être mal interprétés en France et donner lieu peut-être à de justes obstacles. Monsieur le comte, j'espère qu'un exposé aussi naturel et aussi franc détruira à vos yeux les idées défavorables qu'auraient pu suggérer les circonstances de ma situation. Et c'est par une suite de la même intention que je prends la liberté d'inclure ici, sous votre couvert, une lettre ouverte pour ma femme, osant réclamer vos bontés pour elle dans ce qui pourrait dépendre de votre ministère pour lui faciliter les moyens de venir partager mon exil volontaire. Daignez agréer, etc. Quant à celui des Pays-Bas, je lui écrivais qu'on cherche d'ordinaire à échapper à la surveillance, que je venais au contraire implorer la sienne. Je lui répétais, comme dans la précédente, ce qui venait de m'arriver dans la Tamise, et qu'on m'avait jeté sur le continent sans avoir prononcé aucun motif ni argué aucun grief. Je l'informai que je venais d'écrire au ministre de la police de France pour lui faire connaître les motifs qui me portaient à m'exiler volontairement. Je lui exposais que je me trouvais fort malade et que mon fils était dans un état de santé alarmant, que je venais de faire une traversée de 100 jours sur un petit bâtiment, que j'ignorais l'existence de ma femme et de tous les miens, que je ne savais plus où en étaient mes affaires domestiques, et je le suppliais, par toutes ces raisons, de me permettre de demeurer quelques jours à Bruxelles pour respirer et me reconnaître, pour faire venir ma femme et profiter des secours de la médecine. Que peut-être aussi, durant ce temps, le ministère anglais, dans la dureté et la précipitation duquel il devait nécessairement y avoir eu quelques méprises, reviendrait-il à me permettre d'assister en personne, ainsi que je l'avais demandé, à l'examen des papiers qui m'avaient été saisis. Enfin, je finissais par l'assurer que je ne rapporterais ni vue ni idée politique, que tout se réduisait en moi à de purs sentiments d'affection privée, de tendre dévouement personnel, que ces sentiments étaient naturels, honorables, et que l'aveu que je lui en faisais devait être le garant qu'il ne pouvait inquiéter personne. Je dois à la justice et à la reconnaissance de dire que ma lettre au ministre de la police de France amena de sa part, lorsque les occasions s'en présentèrent, tout ce qu'on devait attendre au moins de l'homme de bonne compagnie. Il n'en fut pas de même de celui des Pays-Bas. Je n'eus d'autre réponse de lui que des gendarmes. Des ordres furent expédiés partout pour me retrouver. On croyait m'avoir perdu, car ainsi que me l'avait dit celui chargé de ma surveillance, la permission du gouverneur de me laisser mettre en route n'avait pas tardé à arriver, et j'en avais profité immédiatement, prenant, à cause de mon état de souffrance, les voies commodes mais obscures et lentes, celles des canaux, ce qu'on n'avait pas deviné. L'on me cherchait bien loin d'Ostende, que j'étais presque encore à ses portes. Ma confiance et ma sécurité avaient tout dérouté. On n'avait pas bien encore mon signalement, on était fort en peine pour me reconnaître, et ce fut moi-même qui ne tardai pas à calmer ses inquiétudes en venant me livrer, comme on dit, dans la gueule du loup. Au bout de 3 jours de voyage, arrivant fort tard à Bruxelles, mon premier soin fut d'envoyer à la police donner connaissance de mon arrivée et demander la décision qu'aurait portée le ministre à mon sujet d'après la lettre que je lui avais adressée d'Ostende. La réponse généreuse à mon innocente confiance fut d'envoyer faire investir mon auberge dès l'instant même, et l'on attendit avec impatience le point du jour pour me signifier que j'eusse à sortir, sans le moindre délai, du royaume des Pays-Bas. J'étais très souffrant, j'avais de la fièvre, je demandais vainement qu'on eût la compassion de m'accorder au moins un jour. Il fallait assurément qu'il y eût des inconvénients bien graves à me laisser séjourner dans Bruxelles, ou qu'on fût facilement porté à être barbare envers moi. On ne me donna pas une heure. Je fus placé entre un commissaire de police et un gendarme dans une voiture et jeté sur le grand chemin. Ceux-ci, témoins de mon état, me prirent en pitié et consentirent à s'arrêter au bout de quelques heures pour me procurer un peu de repos et recevoir quelques pansements nécessaires, mais sous la condition expresse que je me remettrais en route dès le lendemain de bon matin, sous la garde des surveillants désignés pour les remplacer, ce qui fut fidèlement exécuté et répété de ville en ville, en dépit des observations et des témoignages réitérés de tous les médecins. Victime de si cruels traitements, je crus devoir m'adresser à l'ambassadeur de France en Belgique, qui ne manquerait pas, me disais-je, de s'élever avec violence contre un tel état de choses. Car sans motif légitime et en violation des lois, traiter de la sorte un Français confié à sa protection, c'était un outrage à son caractère public. Je lui donnai donc connaissance des mesures vexatoires et barbares exercées en cet instant sur ma personne. Je lui disais qu'en abordant à Ostende, j'avais écrit au ministre de la police de France les motifs qui me portaient à demeurer en dehors, que j'avais écrit en même temps au ministre de la police des Pays-Bas pour le supplier de trouver bon que je séjournasse quelques instants à Bruxelles, et qu'arrivé fort tard, libre et sans surveillance dans cette dernière ville, je m'étais empressé d'en donner connaissance à son Excellence, mais que le lendemain j'avais été réveillé subitement, avant le jour, entouré de 4 personnes de la police et de 2 gendarmes, et qu'il m'avait été signifié, en dépit de mon état très souffrant, qu'il fallait partir à l'instant. Qu'en vain j'avais demandé un médecin pour qu'il pût constater mes besoins, qu'il m'avait dit qu'on allait me l'accorder pour la forme, mais qu'il me faudrait partir, quelle que fût son opinion. Qu'en effet, j'avais été transporté à Louvain, en malfaiteur et moribond, sous l'escorte d'un officier de police et d'un gendarme, qu'en arrivant à la nuit dans cette ville, mon mal ayant augmenté, couvert de vésicatoires, la fièvre m'ayant pris, j'avais demandé à séjourner le lendemain. Que le bourgmestre avait eu l'inhumanité de me le refuser en dépit de 2 ou 3 déclarations très fortes des médecins. Qu'ayant demandé que le gendarme du moins pût m'accompagner dans ma voiture au lieu du gendarme qui suivrait à cheval, cela m'avait été refusé encore. Que tout ce qu'on pouvait me permettre, m'avait-on dit, était que le médecin m'accompagnât dans une 2e voiture, ce qui était une ironie sans doute. J'ajoutai que j'étais bien sûr qu'un tel traitement ne pouvait venir de lui, qui seul pourtant, dans cette circonstance, aurait le droit d'influer sur mon sort, que j'étais trop familier avec les sentiments de notre nation pour supposer un instant que ces instructions pussent porter la proscription de quelqu'un contre lequel il n'y avait, ni n'avait pu y avoir, de loi ni de motif d'en agir ainsi, que les mauvais traitements que j'éprouvais ne pouvaient donc me venir que des autorités du pays, où je devais pourtant être considéré en toute justice comme simple voyageur. Qu'à ce titre, je leur demandais quel était donc mon crime et quels étaient leurs droits sur ma personne. Et je finissais par déposer entre ses mains mes intérêts, dont il était, par son poste, le protecteur naturel. Afin de mieux réveiller son attention à mon égard, je lui donnai des nouvelles de Madame Bertrand, sœur de sa femme, nouvelles que j'avais reçues précisément en quittant Douvres, et je lui offrais, si Madame de la Tour du Pin avait quelque chose à faire dire à sa sœur, qui en serait fort bien heureuse, de m'en charger avec plaisir, ayant l'intention de lui écrire régulièrement tous les mois par la voie qu'admettaient les règlements anglais sous le couvert même des ministres. Cette lettre resta sans réponse de la part de son Excellence. C'est que ses efforts furent vains, sans doute. Alors l'impulsion, peut-être même les ordres, venaient d'outre-mer. Je continuai de la sorte sans répit, colporté de place en place, de commissaire en commissaire, de gendarme en gendarme, à travers tout le royaume des Pays-Bas. Et quand parfois, dans l'excès de mes souffrances, je demandais quel pouvait être le motif d'un aussi doux traitement, on me répondait simplement que tel avait été l'ordre transmis. Et au fait, personne ne semblait en savoir davantage. Arrivé sur le territoire prussien, à Aix-la-Chapelle, les agents des Pays-Bas m'y déposèrent comme un reçu, comme on eût fait d'un ballot, et les Prussiens, à leur tour, de me pousser tout aussi rapidement de poste en poste, de commissaire en commissaire, de gendarme en gendarme. Et quand je leur demandais à eux aussi pourquoi tout cela, ils me répondaient ingénument qu'ils n'en savaient rien, mais qu'on m'avait jeté chez eux et qu'ils me jetaient dehors. Demandais-je à demeurer, ils répondaient poliment qu'ils ne voulaient pas de moi sur leur territoire. Et des amis, car l'on va voir que j'en trouvais partout, me soufflaient à l'oreille d'en rendre grâce au ciel, de me hâter surtout de mettre à profit cette bonne fortune, des bannis français ayant été, il y avait peu de temps, traînés sur les bords de la Baltique et confinés dans des forteresses. Alors je déclarai que je voulais aller à Francfort, ce qui parut faire plaisir à nos hôtes les Prussiens, parce que cela, disait-il, ne les regarderait plus. Ce dont je me réjouissais fort aussi, pour mon compte, d'après ce qu'on venait de m'apprendre. Mais après avoir peint, bien faiblement encore, tout ce qu'on venait de m'infliger de sauvage et de brutal, toutes les peines et les souffrances dont on m'avait accablé, je serais injuste et peu reconnaissant, et je me priverais moi-même de la jouissance la plus douce, si je taisais l'espèce de compensation que je recueillais partout à chaque pas. Mon histoire avait fait grand bruit, elle s'était répandue au loin, elle me devançait, les papiers publics s'en étaient emparés. On savait qui j'avais suivi, qui j'avais voulu soigner, pour qui je souffrais, et l'on s'efforçait de m'en tenir compte. La bienveillance, la sympathie dans toutes les classes s'empressaient autour de moi. Je me trouvais environné de démonstrations publiques ou d'offres secrètes, et alors me revinrent à l'esprit ces paroles de Napoléon, dont au surplus j'ai eu maintes fois depuis l'occasion de me ressouvenir. « Mes chers amis, de retour en Europe, vous verrez que d'ici encore, je donne des couronnes. » Or, en est-il de plus pur, de plus douce, que l'estime, l'affection, la sympathie de ceux-mêmes qui ne vous connaissent pas ou ne vous ont jamais vu? Quelle main toute puissante peut dispenser rien de comparable? Je retrouvais ces sentiments dans les auberges, sur les grands chemins, partout. Les postillons, les gendarmes, tout ce que je trouvais sur ma route, s'adressaient à moi avec une espèce d'orgueil et de joie. L'un me dit « Moi, je sors de la garde impériale. » Un autre, j'étais gendarme français. Un autre, j'étais soldat de Napoléon. Ces souvenirs et la bienveillance qui en était la suite se montraient dans tous les états, dans tous les rangs. Deux fois, dans la Belgique, on m'offrit de m'enlever. Tout ayant été soigneusement prévu d'avance, me faisait-on dire. C'était précisément la même offre que celle du capitaine américain au Cap, offre du reste qui s'est renouvelée encore plus tard de la part de quelques Anglais auxquels j'étais tout à fait inconnu et qui avaient résolu de partir de Londres pour venir m'arracher de Francfort, où ils me croyaient plus mal que je n'étais. Mais toujours ma réponse était la même, « À quoi bon? Pourquoi gâterais-je une si belle cause ?» La sollicitude, le tendre intérêt, remontaient jusqu'aux agents de l'autorité même. L'un d'eux, malgré la surveillance qu'il exerçait, m'offrit de se charger de tout papier que j'aurais la confiance de lui remettre. J'en profitais parce que je n'y voyais aucun inconvénient, quelque mauvaise intention d'ailleurs qu'il eût pu me déguiser, et j'adressai à une personne éminente en Angleterre une note de 6 lignes, mais fort vive, sur les traitements dont les ministres anglais, depuis un an, me rendaient la victime, avec prière d'y donner de la publicité s'il n'y avait pas d'inconvénient. J'y joignais, dans la même intention, le fragment de la lettre de l'empereur dont il m'avait été permis de prendre copie, observant que j'eusse continué d'en jouir en secret si les comptes absurdes et outrageants remplis dans les journaux ne me faisaient une espèce de devoir de la rendre publique. Le tout, au demeurant, était laissé à sa décision discrétionnelle. Quelle ne fut pas ma surprise de voir le tout, dès le surlendemain, dans les papiers de la Belgique. J'en fus vivement affligé. Il n'était point dans mon caractère de faire tout ce bruit. J'étais désolé surtout que celui à qui je m'adressais en Angleterre et qui ne me connaissait pas reçût ma lettre précisément par la voie de l'impression, ce qui n'était pas davantage dans mon genre. Je ne concevais pas non plus comment la chose avait pu arriver. J'ai appris depuis que mon confident, dans l'excès de son zèle, s'était adjoint 3 ou 4 personnes du même sentiment, et que, lus dans un petit conciliabule, ils avaient décidé qu'au lieu de perdre le temps à envoyer ces pièces en Angleterre, où l'on n'en ferait peut-être aucun usage, il valait bien mieux les rendre publiques à l'instant et sur les lieux mêmes, où en effet elles causèrent la plus vive sensation. En dépit de toute la contrariété que j'en éprouvais alors, elles me furent, par l'événement, du plus grand avantage. Enfin, je ne finirai pas si je voulais citer les traits touchants dont je fus l'objet, les offres de toute espèce, argent, vêtements, etc., et il n'est pas jusqu'à des gens du peuple qui ne s'empressaient d'apporter leur offrande. L'un d'eux, pénétrant par force dans ma chambre, dont il était arraché en arrière par les gendarmes, me criait qu'il n'avait que 2 habits, qu'il voyait bien à ma taille que le second ne pouvait me servir, qu'il allait le vendre et m'en jetterait l'argent par la fenêtre. Quelle souffrance, quel tourment ne s'effacerait pas devant les sensations causées par de tels actes. Cependant, à Cologne, on fut obligé de me laisser séjourner 24 heures, tant je me trouvais malade. Mais cet accroissement de souffrance fut pourtant un bonheur pour moi. J'étais au lit, sommeillant, quand tout à coup se précipite dans ma chambre le valet de place avec cette joie qu'on est sûr de causer et qu'on éprouve soi-même en donnant une bonne nouvelle. Il m'annonce Madame de Las Cases. Je n'avais pu savoir encore si elle existait. Je pensais avoir mal entendu. Je crus que je rêvais. Les battants s'ouvrent. C'était elle. La pauvre malheureuse, dans toute la rigueur de la saison, au travers de la pluie et des neiges, courait depuis longtemps après moi sans pouvoir m'atteindre. Dès qu'elle avait appris par les papiers publics que mon arrivée en Europe et ma déportation à Ostende, elle s'était mise aussitôt en route pour cette dernière ville, et ce ne fut qu'à ses portes qu'elle apprit que j'en étais parti. Elle me suivait depuis à la piste des persécutions et des tourments qu'on faisait peser pour moi, et dont chacun sur sa route, les passants même, l'entretenait, ou bien encore qu'elle disait chaque matin dans les journaux. Entourée d'ailleurs elle-même partout, de la part de tous, de cet intérêt, de cette bienveillance, de ces soins, de cet empressement dont on a vu que j'avais été l'objet. Depuis longtemps, elle avait l'affreuse contrariété de demeurer toujours à peu d'heures de moi, mais sans jamais pouvoir m'atteindre, ce que nous ne dûmes qu'au séjour accidentel de Cologne.